Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez Les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Benoît Fix et après presque une année d'absence, me voilà de retour dans cette émission Jeux du Mois. Et pour m'accompagner, je suis avec Flavien, mon comparse de Autour du Jeu. Salut Flavien.
Salut Benoît Fix. Ouais, écoute, salut à toi. Ouais, effectivement, une petite année, mais c'est pas parce que tu trouves tous les jeux nuls et qu'une fois par an il y a un jeu bien qui sort, c'est parce que t'as moins le temps de jouer, peut-être.
Ouais, je joue un petit peu moins. Toi, tu joues un petit peu plus puisque tu avais participé en début d'année, t'avais fait la première émission des Jeux du Mois de cette année.
Ouais, sur Dorf Romantique, la grosse surprise.
C'est ça.
Et ouais, beaucoup de très bonnes choses qui sont sorties cette année et puis il y a quelques mois. Alors début 2024, là on va parler, c'est bien parce que tu vois, si tu l'avais pas fait, le jeu dont tu vas parler, qui, attention, vous l'avez vu dans le nom de l'épisode, et Captain Flip, incroyable. Dès qu'il est sorti, enfin j'avais joué un peu sur BGA, j'étais chaud pour en faire un jeu du mois, et il y avait plein de monde chaud dans l'équipe.
C'est vrai.
Et du coup c'est bien, c'est toi, et parce que moi depuis il y a un autre jeu qui m'a fait de l'œil, mais du même auteur, on reviendra
c'est ça,
dessus.
On a décidé aujourd'hui de faire une spéciale Paolo Mori, même s'il n'est pas seul auteur sur Captain Flip. Et c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu malheureusement oublier son co-auteur. On parle beaucoup de Paolo Mori, mais...
Ouais, Paolo Mori qui, pour moi, alors je pense pas qu'il pourrait être dans un sorton de grands jeux, tu sais, parce que ils font à chaque fois des gens avec une ludographie importante. Je pense que pour moi, le plus qui pourrait y être, ce serait Augustus pour comment est-ce qu'il a modernisé le bingo, tu sais.
Ouais, c'est ça. Augustus Libertalia pourrait, pour moi, être deux prétendants au sorton de grands jeux.
Libertalia pour le guessing.
Ouais, et puis le système un peu aussi de... Enfin, moi, c'est le premier jeu que j'ai connu avec ce système de classement entre le pouvoir et la valeur en fait de la carte, qui est assez intéressant. Donc, je sais pas. Ouais, pour moi, ça a été deux jeux
pour
quand
moi,
même
qui ont, grand auteur,
qui ont marqué. Ouais, c'est deux jeux qui ont marqué ma découverte ludique, moi, Libertalia et Augustus.
Ouais, moi aussi Libertalia à l'époque avec son look un peu gritty, tu sais, des pirates crado. Plus que la ressortie là il y a quelques temps, mais ouais, je sais pas s'il y a un grand jeu, mais en tout cas moi c'est un auteur super important pour moi des 15 dernières années du jeu de société, un auteur italien qui en plus il a fait des jeux connus, Augustus, Libertalia, et aussi fait des jeux à deux. J'y reviendrai moi quand je parlerai du match du siècle puisque c'est un jeu uniquement à deux, mais il a fait Blitzkrieg et César qui est beaucoup moins connu mais qui est très très bien si vous avez l'occasion, mais qu'il a aussi c'est Twin qui avait fait un jeu du mois je crois sur Blitzkrieg.
Oui, tout à fait.
Donc il fait des jeux comme ça assez populaires, mais faut savoir que ouais, il a fait aussi Ethnos qui était ressorti sur Archaeo Society là, l'année dernière, avec plein de gens qui ont râlé sur l'édition des Space Cowboys, comme quoi ça avait retiré beaucoup de l'identité d'Ethnos, Dogs of War, Pocket Battles aussi un peu plus tôt. Et c'est un auteur ouais, qui a aussi fait un jeu, alors je me rappelle plus du titre, mais un jeu sur des révoltes italiennes des années 20 et tout, qui m'a l'air incroyable. Et alors là aussi, il était pas tout seul, mais ça m'avait l'air trop trop cool. Et du coup, il mélange comme ça un peu les différents trucs et...
Ouais.
Un auteur super intéressant, je crois.
Bon, avant d'aller plus loin sur Paolo Mori, il faut que nous remercions nos donatrices et donateurs qui nous aident à réaliser ce podcast. Et dans cette émission, on remercie El Piero 50, Olfenv, Robinocrit, Altaripa, Arnaud VM, Lacariatre, Sam Chassit, RetroFX, Raduris, Kinarbre, la famille Guillot, Aurélien Pinceau, Pogman, Ricky, Chacado et Gamt.
Merci à vous. Et on remercie aussi notre sponsor, notre partenaire, la Caverne du Gobelin, qui sont toujours 6 boutiques. Ah, il n'y en a pas encore une 7e. Il commence à faiffaiblir.
Le rythme d'ouverture.
Il y a ouvert 4 boutiques en un an. Donc il y a 6 boutiques. Il y en a Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Certaines ont des cafés-jeux également. Et si ça ne vous suffit pas et que vous n'êtes pas dans le Grand Est, notamment dans l'ancienne Lorraine, c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne que vous pouvez trouver sur cavernedugobelin.com.
Merci Flavien. Est-ce que tu as noté un petit peu les commentaires de l'émission précédente ? Est-ce que tu peux nous rappeler aussi de quel jeu parlait l'émission précédente ?
C'était Astien et Pionf, Astien sur The Veil of Eternity et Pionf sur Kaori. Alors faut savoir que ça arrive, on enregistre assez en avance de la publication des jeux du mois d'avril, et donc il n'y a pas beaucoup de commentaires. Peut-être qu'au moment où vous écouterez, en fait il y a eu 50 commentaires et que Pionf serait ravi. Sur Veil of Eternity, un seul commentaire de Grégory Copin qui parlait de si on aime bien les jeux de combo, il y a Wizards of the Grimoire qui est un jeu exclusivement à deux qui est sorti l'an dernier je crois et qui est disponible sur Board Game Arena, qui vaudrait le coup d'être essayé. Voilà, j'ai pas essayé moi pour le coup Zend of the Grimoire, je l'avais vu passer dans mes,
moi non plus.
Dans mes trucs YouTube, mais du côté de Kaori, un peu plus de commentaires. Alors faut savoir que Pionfesseur est désormais influenceur, voilà, parce que il a influencé Delos sur son achat de Kaori. Voilà, ça y est, on peut dire que Pionfluenceur, c'est change ton pseudo.
Ouais.
Donc voilà, ça c'était plus pour la blague, mais moi je considère qu'on est des influenceurs, de toute façon je sais pas que c'est genre, il y a des influenceurs.
Bah, à partir du moment c'est... où... On parle, voilà.
On influence forcément. Des gens.
Si, en décrivant des jeux, on convainc certains de les acheter ou pas, on reste.
Ou d'y jouer.
Parce que, ouais. Ou ne pas y jouer, c'est de l'influence aussi. Hein.
Birdou, de son côté, a joué aussi, et pour le coup, lui a plutôt joué à 3. Alors, c'est un jeu de 2 à 4, je crois, ils avaient dit clairement, 2, vous oubliez. C'est vraiment une espèce d'écosystème et de synergie qui fait que le jeu prend en termes de narration et de synergie. Et du coup, je sais que j'avais vu plusieurs débats justement sur, c'est plutôt à 3 ou plutôt à 4, parce que le personnage de la Maori a été rajouté plus tard. Du coup, Birdou, lui, dit plutôt le truc à 3, et il trouve le truc tellement équilibré. Qu'il dit, moi je me vois pas trop y jouer à 4 parce que je vois pas ce qu'elle va ramener la Maori en fait dans la synergie kiwi possum anglais. Si ce n'est que la Maori, c'est celle qui était là. Enfin, non, elle était pas là avant tous les autres, c'est pas vrai. Les kiwi et les possums étaient sûrement là avant. Mais thématiquement, je trouverais dommage de retirer en fait les humains qui ont été un peu mis de côté là-dedans. Et Pionf, lui, disait qu'il était très très client du truc à 4 et tout, donc notamment en disant, peut-être que l'auteur avait commencé à 3, mais le résultat final, on peut y jouer à 4 et moi j'ai trouvé ça très bien à 4. Donc voilà. Mais c'est un débat que j'ai vu plusieurs fois déjà sur les internets. Et Caducé rejoint Pionf sur notamment le fait que c'est un jeu qui, malgré des dynamiques et tout vraiment profondes et tout, c'est vraiment un jeu qui propose ça, ce que Pionf après appelait le jeu d'immersion, avec quelque chose de très facile d'accès, ce qui est pas forcément la caractéristique principale de ce genre de jeu actuellement. Et notamment aussi du fait de carnet d'aide et... Elle donnait Caducé notamment des exemples de pratiques en famille ou même pour les enfants. Du coup, ça devenait un jeu qui était possible à sortir. Et alors que pour ressentir ces émotions-là, souvent, tu vois, des routes ou quoi, c'est un peu plus costaud. Je sais pas, t'as essayé un des deux, toi ?
Non, j'ai Kaori. On en a parlé beaucoup à Cannes et c'était un peu tout le monde voulait jouer à Kaori parce que le Pionfesseur l'encensé depuis un moment, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Et sur Veil of Eternity, j'y ai pas joué non plus.
Ouais, moi j'ai joué à Veil of Eternity. Alors c'est rigolo parce que les jeux du mois c'est quand même des coups de cœur et c'est vrai qu'Astien était relativement mesuré entre guillemets, en tout cas sur la portée à long terme du jeu.
Ouais, clairement.
Je rejoins assez. Moi je trouve vraiment que, alors j'aime pas du tout l'édition, les visuels, au-delà même de la figurine qui sert à rien, j'y veux que sur BGA. Moi je trouve que c'est un jeu qui a des éléments intéressants mais que son cœur est quand même assez déjà vu, le côté synergie, carte à combo. Il y a ce système de monnaie très restreinte, très contrainte que moi j'aime beaucoup parce que du coup c'est une très très forte contrainte. C'est surtout ça que je rejoins et effectivement après il y a des combos qui marchent bien et tout et qui sont assez satisfaisants. Mais... Et Kaori j'y ai pas joué aussi mais j'étais déjà assez chaud. J'avais des réserves moi notamment sur la manière de thématiser le truc parce que la Maori tu sais elle est là, elle construit des temples et c'est ce que disait Pionf, c'est qu'en termes de réalisme et d'immersion, la réalité c'est que quand les Anglais sont venus faire chier le monde, à mon avis les Maori ils étaient pas là à dire ouais peace and love les mecs ont construit des temples. Et ça reflète sans doute pas assez l'aspect résistance et domination, colonisation du truc, même s'il y a des dynamiques là-dessus. Mais et que à mon avis il y a eu, je me suis déjà fait moquer là-dessus sur les internets, mais j'avais dit aujourd'hui ce serait bien que quand on traite de thèmes comme ça dans les jeux de société, il y a des consultations de personnes concernées. Et là ça n'a pas été le cas de toute évidence quoi, je sais plus qui c'est qui a édité le jeu, mais après j'ai eu des retours comme quoi ça va, c'est pas non plus. Et puis le fait de mettre les kiwis, les possums, justement des équilibres entre joueurs humains et joueurs animaux et tout, et notamment la puissance des animaux, c'était assez intéressant aussi. Mais je suis super chaud pour y jouer du coup, Pionf m'a donné très envie aussi,
ouais,
je suis un peu
comme
Delos, ça y est. Je suis plus influencé pour Kaori.
Ouais, on aura l'occasion de tester ça.
Ouais, il l'emmènera sur mon week-end proxy, il a intérêt.
Ouais. Et du coup, merci pour le retour sur les commentaires. Je vais te laisser ouvrir le bal avec du coup le premier jeu de ce jeu du mois qui sera le match du siècle.
Yes, allons-y. Alors le match du siècle, Match of the Century en anglais. Alors faut savoir, juste petit trigger warning, enfin pas trigger warning, enfin il y aura un trigger warning, mais plutôt petit addendum, je sais pas comment on le dit, il y a un mot pour ça, mais en tout cas, petit élément à savoir, j'ai joué qu'en anglais. Ah non, j'ai pas joué qu'en anglais. Moi j'ai le jeu en anglais depuis sa sortie à Essen. Je remercie Gaum, un de mes donateurs qui me l'a ramené d'Essen, parce que j'avais été bien chauffé par des vidéos, j'aime beaucoup Paolo Mori, je m'intéresse à peu près à tous les jeux qu'il fait, et j'avais été chauffé par des vidéos en anglais que j'avais vu dessus et tout, jeu à deux, Paolo Mori est fort dans les jeux à deux, pas que, mais il est fort partout. Il est sorti là en français chez Gigamix, qui est l'occasion d'en parler. Et j'y ai joué, en fait, moi je l'ai donc depuis plusieurs mois. Et il a fallu que j'attende la sortie du truc en français pour y jouer. Je disais, j'ai pas joué en français, c'est faux, parce qu'en fait, j'ai un pote qui ne nous écoute pas, je crois, mais si jamais, Nico, si tu écoutes cet épisode précisément, salut, qui est très fan d'échecs depuis quelques années et qui était bien chaud sur le jeu, et donc on se promène en vide et tout, et puis il l'achète en français. Du coup, en fait, j'ai fait ma première partie quand même en français, bien que j'ai le jeu en anglais depuis des mois, et j'ai rejoué depuis avec ma version qui est la version anglaise. Mais faut le savoir, voilà, s'il y a des règles... Alors, on a eu aucun souci pour jouer en français, c'est-à-dire qu'on a relu le truc de règles et tout, donc j'ai pas noté de éléments particuliers d'édition qui, dans la traduction et la localisation, seraient complètement claqués. Voilà, gardez-le quand même à l'esprit que moi, je viens avec ma version surtout anglaise qui est jouée, donc ça se trouve je passe à côté de quelques soucis de traduction ou trucs comme ça. Donc, petite fiche analytique comme d'habitude, donc on l'a dit, hein, l'auteur Paolo Mori en solo, alors qu'il est quand même souvent accompagné. Du côté des illustrations, alors c'est rigolo parce que donc c'est Clémence France, mais c'est noté sur la version française et peut-être aussi anglaise, je sais plus, comme Atelier 198, c'est vraiment son atelier à lui.
Ok.
Mais c'est la même personne, hein. C'est voilà, si vous regardez sur Instagram Atelier 198, c'est Clémence France, voilà, un illustrateur assez connu. L'éditeur de base, alors je sais jamais exactement, mais il y a Capstone Games qui a fait ça, il y a Deep Print, il y a Pegasus aussi en Allemagne. Bon, voilà, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, hein, j'y reviendrai, mais qu'on fait plein de jeux à deux et tout. Et c'est donc en français chez Gigamic, un peu dans la gamme des jeux à deux qu'ils ont l'année dernière, par exemple, ils avaient fait dedans Dorgée de blé. J'allais dire Beer and Bread parce que lui aussi, j'avais découvert en anglais, qui est un jeu que j'aime beaucoup aussi, de Scott Helms. C'est un jeu exclusivement à deux, donc comme Dorgée de blé, dans une boîte un peu format, genre Seven Wonders Duel et tout, des jeux à deux qu'on a l'habitude de voir en termes de format, annoncé pour 10 ans et plus, ce qui me paraît pas absurde, pour une quarantaine de minutes, ce qui me paraît pas absurde non plus, et à 28,90€ chez La Caverne, ce qui me paraît pas forcément absurde, je parlerai de l'édition après. C'est par contre fabriqué en Chine, mais rassurez-vous, c'est fabriqué en Chine, alors... je pense que c'est des fabrications internationales parce que c'est le cas pour toutes les boîtes, mais donc bon, toujours les limites là-dessus, c'est comment on fait, est-ce que si on fait un truc français, on le fabrique en Europe, ou bien est-ce qu'on se joint à la fabrication et tout. Ça voilà. Faut savoir que quand même, c'est avec du bois issu de forêts bien gérées, avec le petit logo FSC.
C'est toujours cool qu'il y ait ce genre de démarche.
Ouais, bah c'est surtout, il y a pas de plastique dedans, c'est vraiment du bois, on retrouve dedans les jetons des échecs. Alors pas tout ça, on retrouve deux rois, une reine, alors essayez pas de jouer aux échecs avec le masque du siècle, c'est mort, et des pions de couleur. Mais effectivement, c'est que des jetons en bois au-delà des cartes et du plateau. Tiens, si, petite anecdote sur, parce que du coup j'ai demandé à Pauvre, parce que je savais pas si c'était fabriqué aussi en Chine, moi j'ai la version anglaise qui est fabriquée en Chine, à Pauvre, du coup, qu'on salue aussi, qui est aussi un donateur, hein. Les privilèges des donateurs, c'est d'avoir des MP de temps en temps. Parce qu'il a adoré le jeu, et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me dire si c'est fait en Chine, donc il a cherché, merci à lui. Et petit truc de traduction, voilà, quand même, il y en faut un. C'est du bois issu de forêts bien gérées, et S, donc on sait pas si c'est les bois qui sont bien gérés ou les forêts. Voilà, c'est le bois qui est bien géré et qui est issu de forêts. Mais c'est juste un petit E qui manque. Oh, c'est très anecdotique, c'est plus pour la blague. Donc, le match du siècle, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel vous allez retracer ce qui est nommé historiquement le match du siècle, c'est-à-dire un match entre Boris Spassky, qui évidemment, quand on a cette culture-là, donne toujours lieu aux blagues Spassky et Hutch. Hein, voilà. Faut savoir que le passe-temps, quand ils en ont parlé, on fait la blague et il y a eu des commentaires de... je crois qu'ils avaient un stagiaire de 3e, évidemment, il a pas eu la ref, et c'est là que tu te sens vieux. Et Bobby Fischer, donc un Américain et un soviétique en pleine guerre froide en 72, qui a plein d'enjeux, je reviendrai un peu sur le thème, notamment, c'est là que je vais mettre mon trigger warning sur le personnage de Bobby Fischer qu'on incarne donc et qui est un antisémite notoire, qui a plein d'un personnage très polémique et haut en couleur, mais qui peut un peu... Je l'ai découvert moi à ce moment-là. Je sais pas si toi tu joues aux échecs déjà.
Ouais, je joue un petit peu, alors j'ai vraiment pas un gros niveau, hein. Et j'ai des phases un peu, des périodes où je vais pas mal jouer sur chess.com ou ce genre de trucs. Enfin, je pense que comme tout le monde, j'ai été... hype un petit peu par les échecs après avoir vu le jeu de la dame, tu vois, sur Netflix.
Ouais.
Parce que tout le monde s'y est remis un peu après ça. Mais ouais, c'est une histoire que je connaissais un petit peu, sans connaître dans les détails, mais effectivement, c'est un affrontement qui a un peu marqué les années de guerre froide, quoi.
Ouais, surtout qu'en plus, c'est spoiler Fischer qui a gagné, et que ça mettait fin à une domination
russe
soviétique depuis des années et des années.
Ouais.
Surtout que Fischer était un personnage, comme je l'ai dit, haut en couleur à la fois du côté non-joueur que du côté joueur, c'était un peu une resta, quoi, il faisait sa rockstar, arrivé en retard, à dire ouais, J'aimerais bien qu'il n'y ait pas les caméras et tout. Ouais, moi les échecs, j'ai joué quand j'étais petit. Je suis nul, j'aime pas les jeux abstraits, vous le savez. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais j'aime pas les jeux abstraits. C'est pas professeur qui parle, mais j'aime pas ça, les jeux abstraits trop calculatoires. J'ai fait quelques parties ici et là. C'est pas un jeu que j'aime beaucoup. Alors, tout de suite, hein, les échecs ne sont absolument pas nécessaires pour jouer au match du siècle. Mais du coup, en fait, c'est pas non plus un milieu auquel je me suis intéressé. Et pourtant, c'est un milieu où des dramas, il y en a et tout. Enfin, ces dernières années, il y avait les histoires du mec qui avait triché avec ses boules dans le cul, là, ou je sais plus. Bref, c'est un milieu où il y a plein de narrations autour. C'est un milieu où il y a aussi des cash prizes et tout, enfin, où il y a des tournois importants. C'est un jeu de société très populaire. Et,
ouais, je dirais que ça est revenu, enfin, c'est devenu populaire aussi ces dernières années. Donc, il y a eu le jeu de la dame et puis il y a pas mal de.
Le stream, ouais.
Ouais, il y a Blitzstream qui a aussi un peu démocratisé ça au niveau de Twitch. Donc effectivement, il y a pas mal d'émulations autour des échecs ces dernières années. Ouais.
Mais donc moi, faut savoir donc garder à l'esprit que j'ai pas joué beaucoup. Encore une fois, ça sert à rien pour jouer au match du siècle, mais c'est important peut-être vis-à-vis du ressenti. Vous attendez pas à ressentir. Enfin, en tout cas, moi, je ressens pas ce que j'ai quand je joue aux échecs. Et notamment, je vais aussi sûrement avoir des biais sur, notamment à très haut niveau, à quel point est-ce que la psychologie, le bluff, tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait du bluff dans les échecs. Tu peux un peu jouer, mais je suis même pas sûr en fait, parce que c'est à un niveau tellement haut que tu peux faire des erreurs, mais ça reste assez rare, je pense. Et l'aspect psychologique, je sais pas à quel point est-ce que c'est un peu romanticisé, qu'il y a un peu de romantisme autour de ça et tout. Notamment autour de ce match qui a en plus ce contexte-là, tu vois, où ça dépasse un peu les enjeux juste du match. Mais du coup, j'ai découvert que Bobby Fischer semblait être un odieux connard, voilà, mais je le savais pas avant et je pense que c'est quand même important de le savoir avant si jamais ça peut vous bloquer, puisqu'on peut l'incarner si on incarne un des deux. Et donc, dans le match du siècle, donc on va effectivement incarner soit Bobby, soit Boris. Et on va être dans un jeu à deux d'affrontement, et le but, c'est de gagner le match via gagner 6 points en fait avant l'autre. Le match, ça va être donc une succession de parties qui sera pas le nombre de parties réelles qui a été fait pendant le match de 72 qui je crois était 21. Là on en aura maximum 11 puisqu'il y a quelqu'un qui atteindra 6 et l'autre donc maximum 5. Et donc l'idée c'est le match et une succession de parties. Et dans chaque partie, donc si tu gagnes la partie tu avances ton petit pion sur la piste de score, et chaque partie ça va être maximum 4 échanges. Donc c'est pas du tout, ça se joue rarement aux quatre coins, hein, le match d'échecs. Et ça va être un jeu de cartes en fait. Hein. C'est pas, il y a des pièces, il y a des pions, mais c'est, je reviendrai sur les pions qui ont leur importance. Mais par exemple les rois ou la reine, c'est juste pour déterminer qui commence, qui a les blancs. Et donc pour gagner une partie en fait, il y a, ça va se dérouler via un système de tir à la corde. Et le tir à la corde, c'est une mécanique que Paolo Mori connaît déjà. Je l'avais dit, Blitzkrieg, c'est plein de tirs à la corde sur plein de territoires différents. Et ce tir à la corde, il va se résoudre, en fait, donc sur les quatre échanges, ça va être quatre espaces où il y a une personne qui va avoir l'initiative. De base, c'est les blancs. Ensuite, c'est la personne qui a gagné l'échange précédent. Une personne va mettre la carte avec éventuellement les pions. Sur ces cartes, il y a des valeurs. C'est des cartes séparées en deux avec un côté si tu joues les noirs, un côté si tu joues les blancs. Les cartes, chaque personne a son deck. Ok, c'est pas un deck commun. C'est un jeu qui se veut un peu asymétrique. Je reviendrai dessus, mais chaque personne a son deck avec ses effets et tout. Donc si tu joues les blancs, bah, tu peux jouer les cartes du côté blanc. Si tu joues les noirs, tu peux les jouer du côté noir. Donc sur ces cartes-là, il y a une valeur. Par exemple, là, j'ai un 3 noir. Pouf, je le pose. Si je rajoute, je peux rajouter jusqu'à 2 pions. Ça rajoute plus 1 à sa force. Donc je peux aller jusqu'à 5 avec une carte 3. Donc admettons, c'est moi qui ai l'initiative. Je mets ma carte 3 et derrière, bah toi, tu joues mon adversaire. Tu es en réaction. Tu vas mettre une carte sur le même espace face à moi. Parmi les quatre espaces, on va vraiment jouer, tu peux pas commencer autre part. Et on va comparer. Les valeurs, tu peux toi aussi rajouter des pions. Les valeurs, c'est soit je gagne, soit tu gagnes, soit il y a égalité. La personne qui gagne va pouvoir faire progresser le tir à la corde vers de son côté, ce qui va déterminer qui gagne la partie. Hein. Si à la fin le tir à la corde est de mon côté, je gagne la partie. Si de ton côté, tu gagnes la partie. Gardez à l'esprit que partie, c'est pas match. Un match, c'est l'ensemble du jeu. Partie, c'est vraiment chaque moment du jeu. Si tu perds, par contre, tu vas appliquer un effet de carte. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un élément très important du jeu, parce que, je sais pas si t'as joué à des jeux du genre, mais moi, ça m'a fait penser, ben, bon, alors, Violet and the Gumpinises, tu connais pas, je pense, enfin, c'est un jeu de pli à deux, ou asymétrique aussi, où pareil, la personne qui perd le pli peut appliquer un effet. Un plus connu, Brian Boru, c'est toi qui avais parlé c'était avec toi que Paul Garin, on avait parlé quand tu parlais de fédération.
Ouais, tout à fait. On a fait un jeu du mois sur Brian Boru. Ouais.
Bah de la même manière, dans Brian Boru, tu gagnes le pli, tu vas pouvoir gagner un territoire. Par contre, tu perds, et ben tu vas pouvoir appliquer des effets. Et des fois, t'as envie plutôt d'appliquer les effets plutôt que de gagner. Et ben là, c'est pareil. J'y reviendrai, mais c'est quelque chose que moi j'adore. Et s'il y a égalité, ah si, la personne qui gagne du coup va gagner en fait, va tirer la corde. Le nombre de cases que tu tires la corde vers toi va dépendre de l'emplacement sur lequel tu es. Les emplacements, ils peuvent donner 1 point, 2 points, 3 points ou 4 points. Sachant que celui qui donne 4 points, si tu le gagnes, tu perds une endurance mentale parce que t'as vraiment beaucoup donné pour gagner l'échange puisque c'est 4 points. Donc, pour gagner la partie, faut que tu gagnes le tir à la corde. Mais si tu gagnes le tir à la corde, tu fais pas tes effets. Et les effets, c'est bien pour plein d'autres raisons. Et donc, s'il y a égalité, personne n'avance sur le tir à la corde. Et personne n'applique son effet. Et c'est très important. C'est-à-dire que des fois, les égalités, tu vas aller chercher parce que t'as vraiment pas envie de gagner. Mais t'as vraiment pas envie que l'autre fasse son effet, parce que tu te dis, putain, si l'autre fait son effet, c'est trop puissant. Donc voilà, tu vas faire comme ça les 4 échanges. Maximum, puisque je reviens pas dessus, mais tu sais que c'est important thématiquement, mais il y a moyen de déclarer forfait, tu peux abandonner la partie si tu le veux. Mmh. Il y a des cartes qui te font abandonner la partie en échange de bons effets. Et il y a aussi, et ça c'est assez cool, c'est que par exemple, admettons que moi j'ai tiré la corde de 5 crans vers moi, s'il reste plus que l'emplacement 1 et 2, ça fait 3, tu vois, 2 et 1. Mmh. Du coup, de base, si je suis à 5, tu pourrais pas gagner. Donc en fait, on met fin au match tout de suite. Quand bien même, il y aurait eu peut-être des effets de cartes qui t'auraient peut-être permis de retirer plus que 5 vers toi, non. C'est, moi j'ai tiré à 5 vers moi, tu peux marquer maximum 3, donc stop, on arrête la partie, et j'ai gagné. Ça je trouve ça intéressant parce que, comme dit, il y a des effets de cartes qui pourraient changer cette donne-là, et le jeu choisit de dire, bah non, en fait, on va pas résoudre les deux derniers échanges, c'est fini, tant pis. Donc voilà, 4 échanges maximum, et puis on fait ça jusqu'à la fin, et en changeant à chaque fois évidemment de qui a les blancs et les noirs. Et donc ce système de cartes, donc j'ai expliqué les pions qui permettent de rajouter des trucs, des points à la carte, et également le système de cartes, j'ai expliqué qu'ils avaient un côté blanc, un côté noir, faut savoir que c'est un élément très important du jeu, tu vas garder en fait tes cartes d'une partie sur l'autre. Alors tu peux en défausser certaines, t'as le choix d'en défausser, mais sinon tu les gardes, et du coup, tu te doutes bien que des fois tu regardes, t'as une carte pourrie en blanc, mais tu sais qu'après tu vas jouer les noirs, tu te dis bah je vais pas jouer ma carte blanche là, parce qu'en fait j'aimerais bien bénéficier de cette carte-là pour la partie suivante, parce que l'effet est bien, parce que l'effet est bien, ou parce que c'est un 5 qui est la valeur maximum. Et ça c'est super intéressant aussi en termes de lecture de jeu, tu vois, il y a que 16 cartes par personne, mais du coup il y a 32 cartes entre guillemets, hein, puisque elles sont... C'est pas recto verso, mais il y a un haut et un bas. Et voilà, donc c'est vraiment un jeu de cartes, tu vois. C'est pas du tout un côté échec. Alors sur les cartes, il y a les pions des échecs. Hein. Là, j'ai un 3 noir, bah, c'est le fou. Voilà, mais ça sert à rien. Enfin, on s'en fout. C'est même pas trop lié par rapport aux effets des cartes, en fait, les figures qui sont présentes sur les cartes. Le dernier système, qui est très important et qui est peut-être le cœur du jeu pour moi, c'est l'endurance mentale. Et c'est là que je disais que peut-être il y a un peu un côté... tu vois, romantique.
Folklore, ouais.
Ouais, un peu, voilà, un peu dramaturgie. C'est dire, ouais, voilà, tu vois, le fait que tu en perdes, si tu gagnes l'échange 4 parce que t'as vraiment mis beaucoup pour gagner ces 4 points, bon, voilà, ça se trouve, t'as gagné sur un, alors que c'était facile et tout. Mais c'est un élément mécanique, tu vois. Et donc, l'endurance mentale, tu as des effets qui vont pouvoir t'en faire gagner, des effets qui vont en faire perdre à l'autre. C'est une piste qui est un peu en dessous du plateau, qui est très importante. Parce que c'est ça qui va déterminer ta limite de carte en main. Donc, en cours de jeu ou quand tu vas refill entre deux parties. Et c'est ça qui va déterminer aussi le nombre de pions que tu vas pouvoir prendre au début de la partie dans une réserve commune, sachant qu'il y a une limite, mais voilà. Donc en fait, si tu descends très bas sur la piste d'endurance mentale, ton adversaire, s'il est plus haut, il va avoir plus de cartes, il va avoir plus de pions, donc il va être beaucoup plus flexible. Et c'est tout un jeu d'essayer de gagner le match, donc de gagner plus de parties que ton adversaire, mais en même temps de maintenir ton endurance mentale, parce que tu sais que si tu la fais trop descendre, ça va être compliqué pour gagner les parties suivantes. Moi, je sais que je joue souvent... Alors, j'ai joué les deux côtés, hein, les Spassky et Fischer. J'ai tendance, alors c'est peut-être un bien de ma part, mais à beaucoup faire mes premières parties, j'hésite pas à les sacrifier. Il y a notamment une carte zéro qui te dit... Il y a plusieurs cartes zéro, alors... qui te disent, bah en fait, tu perds complètement le match, donc tu sacrifies le match, tu déclares forfait, mais tu gagnes autant de points d'endurance mentale que d'échanges non résolus. Donc,
ah oui, si tu le fais au début...
T'essayes de le faire au tout début du match, ouais, pour gagner 3 points, et c'est beaucoup. Alors certes, tu concèdes un match, mais pour le reste, tu vois, ça te permet d'être sur des meilleures bases, et moi je sais que j'ai souvent tendance à le faire. Je sais pas, si t'as moyen de gagner en ayant une endurance mentale très basse, moi je joue avec ma compagne qui a fini assez bas, et qui j'avais gagné, mais pas de beaucoup, donc je sais pas s'il y a vraiment des trucs là-dessus, mais... il y a aussi sur certaines cases d'endurance mentale, alors c'est les cases extrêmes, et franchement on y arrive assez peu si tu fais un minimum gaffe, t'évites que ton adversaire y arrive et t'évites toi d'y arriver, c'est que si t'es très très bas en endurance mentale, ton adversaire commence avec un avantage sur le tir à la corde, donc par exemple il va avoir le cran tiré de 2 points vers lui déjà de base, donc là c'est dur, À l'inverse, si t'es très haut sur l'endurance mentale, ben tu tires le tir à la corde vers toi. Donc imagine si les deux sont aux extrêmes, donc toi t'es au max et l'autre est au plus bas, tu as déjà 4 points de tir à la corde vers toi, quoi. C'est énorme. Encore une fois, c'est plus là pour en épée de Damoclès. Normalement, tu fais gaffe de pas en arriver là, ouais. Quoi. Parce que c'est vraiment punitif. Déjà les cases d'avant où tu prends pas de pion, c'est assez chaud. Faut essayer de s'en sortir. Mais pour moi, c'est vraiment super important. C'est le nerf de la guerre, quoi. Derrière, tu vas effectivement essayer de gagner le match, de gagner des pions et tout, mais ton endurance mentale, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire vraiment très attention. Donc là, j'ai expliqué tout le jeu. Je sais pas si t'as des questions ou quoi sur des trucs où j'aurais pas été clair.
Non. Ça me semble... Enfin, en tout cas, dans les grandes lignes, ça me semble clair. Après, effectivement, il y a tous les pouvoirs et les effets...
Alors, il y a les pions et tout, hein, de ce que j'ai parlé, il y a l'endurance mentale, mais sinon, c'est un jeu qui va se reposer sur ces 16 cartes par personne que tu vas piocher et que tu vas essayer de gérer. C'est vraiment de la gestion de main où tu te dis, ben là, est-ce que j'ai envie de gagner? Donc, je mets un truc fort. Est-ce que je rajoute des pions? Mais là, est-ce que j'ai pas plutôt envie de faire l'effet? Donc, et en fait, c'est tout ce que j'aime, moi, dans le jeu. C'est vraiment le côté, est-ce que je le joue sur le truc qui va me faire gagner un point sur le tir à la corde ou bien sur le 4? Est-ce que je vais pas pousser l'autre à essayer de gagner le 4? Du coup, mettre un effet, une carte assez forte qui me fera un effet fort. Enfin, tu vois, il y a tout ce jeu de tension psychologique qui existe. De se dire, bah, en fait, là, je mets mon 5. Est-ce que je mets des pions? Non, je vais pas en mettre. Vas-y, tu peux gagner cet échange, mais du coup, je ferai mon effet. Mon effet, c'est gagner deux pions, plus deux cartes, plus machin. Plein de petits trucs comme ça. Et,
tout le côté choix et décision qui peut être parfois un peu difficile, quoi.
Alors que, encore une fois, tu n'as que maximum 7 cartes en main, puisque ça peut aller jusqu'à 7, le nombre de cartes en main que tu as, si tu as une très bonne endurance mentale. Finalement, je trouve que c'est trop cool la manière dont il arrive à mettre des vrais choix et de la vraie tension avec finalement des règles aussi simples et finalement assez peu d'éléments de jeu.
Du dilemme, quoi. Apporter du dilemme.
Ouais, ouais. Et là-dessus, Paolo Mori est trop fort. Enfin, on en parlera quand tu parleras de ton jeu, de Captain Flip. Il arrive à proposer des systèmes simplissimes, mais dans Blitzkrieg et dans César, c'est pareil. T'as très peu de jetons que tu peux jouer, que tu peux poser pour faire bouger les tirs à la corde. T'as beaucoup de contraintes, en fait, finalement, t'as l'impression de pas avoir tant de choix que ça. Concrètement, tu vois, t'as peu d'éléments de jeu sur lesquels... Mais en fait, il va déporter le choix à d'autres moments ou à d'autres endroits sur « Ah ben, je vais pouvoir jouer mon avion, mais je vais le jouer où ?» Là, mais si je le joue là, ça va me donner ce bonus, machin truc. Et comment, avec un système hyper simple et une impression de choix très restreinte, il arrive quand même à proposer des vrais dilemmes et des choix, des vrais enjeux de choix, en fait. Là où il y a beaucoup de jeux qui sont aussi simples, mais où ça va se traduire par un choix assez faible, et où t'as l'impression de jouer un peu au random, et où tu vas pas avoir beaucoup d'intérêt, finalement, tu vas pas être titillant, en fait, tu vois, alors que là, tu te dis, ouais, je pourrais jouer cette carte, mais est-ce que je la garde pas pour la partie suivante, parce que le pouvoir de l'autre côté, il est trop bien. Et c'est plein de petits trucs comme ça, qui font que moi, j'aime beaucoup ce sentiment de jeu, et je trouve qu'on retrouve vraiment la patte Paolo Mori. Moins dans les mécaniques, tu vois. Enfin, si, dans le tir à la corde, tu vois. C'est plus, ouais, des sentiments de jeu et des sentiments d'espace de choix qui te laissent, que je trouve vraiment brillant, quoi. Et comment... Et puis la gestion, effectivement, du hasard, puisque, cartes que tu pioches, voilà.
C'est l'opportunisme que tu peux trouver dans le hasard qui est intéressant, mais...
Ouais, en fait, ça se joue sur ce que t'as en main. Alors, des fois, il y a des parties où... Et du coup, si tu vois que la partie, elle est pas bonne... Bah là, tu regardes l'autre côté des cartes en disant, bon, celle-ci, ça va être dur. Qu'est-ce que je peux garder pour la partie prochaine? À quel moment est-ce que je me sacrifie? À quel moment j'abandonne? Quel effet je peux faire finalement pour bénéficier, pour regagner un peu d'endurance mentale? Des trucs comme ça. Et du coup, pour ça, il faut que les cartes soient bonnes. En fait, dans un jeu comme ça, si les cartes sont nulles, ben, le jeu est nul, quoi. Et alors là, il y a des trucs assez classiques. C'est l'adversaire doit subir moins un en endurance mentale. Mais t'en as, par exemple, où c'est, là, je suis sur le deck de Spassky. Tu subis moins un en endurance mentale, puis tu défausses les cartes et les pions de cet échange, et l'avantage n'est pas assigné. Donc, t'as quand même des effets forts. Il y en a aussi un qui est trop bien. C'est, je crois que c'est Spassky qui l'a, c'est jusqu'à la fin de la manche, enfin de la partie, pas du match, hein, juste de la partie, Fischer ne peut plus utiliser de pions. Eh ben, moi, je l'ai subi, cette carte, une fois, je me suis dit, waouh, là, là, ça fait mal. Et du coup, en fait, tout s'est joué là-dessus et tout, et si j'avais eu le droit et tout d'utiliser les pions, j'aurais pu changer, mais du coup, il l'a bien joué, et c'était trop bien. Et c'est vraiment, tu vois, pourtant, il y a que 16 cartes, encore une fois. Et sur chaque carte, par contre, il y a qu'un effet, parce que t'as un effet de base qui est avec le 1, c'est si tu perds la manche, tu pioches une carte ou tu prends un pion. Ça, c'est l'effet de base, et les effets un peu plus rigolos sont de l'autre côté de la carte en général. Il y a aussi un truc, c'est comme t'as que 16 cartes, quand ta défausse est, enfin quand ta pioche est vide, tu remélanges. Mais ça te coûte 1 d'endurance mentale. Et ça, ça change tout aussi, tu vois. Enfin, parce que du coup, est-ce que je défausse des cartes parce qu'elles sont pourries avant de repiocher? Mais en même temps, ça va faire plus vite tourner mon deck. Et du coup, ça va me faire perdre de l'endurance mentale. Là, t'as une carte de Spassky, tu remélanges ta défausse dans ta pioche, et tu subis pas l'endurance mentale perdue. Donc ça, c'est trop bien, mais faut attendre un petit peu, tu vois, qu'il y a quand même des fausses intéressantes à remélanger. Mmh. Là, pareil, il y en a une qui est trop bien, tu vois, je te donne quelques exemples, mais c'est parce que t'es là, tu dis, ah, c'est vrai que c'est bien ça. Mais c'est une 4, donc déjà, pour l'activer, il faut que l'autre, il mette une carte assez forte, ou qu'il rajoute des pions, et puis il connaît ton effet, donc il va se dire, ah, ouais, j'ai pas envie de le subir. C'est, tu prends une carte au pif de la main de l'adversaire, et tu choisis s'il va devoir la défausser ou la jouer au prochain échange. Trop bien, tu vois.
Bah, ouais, clairement.
Trop des effets trop cool. Et je trouve, ouais, c'est vraiment des effets chouettes qu'ils ont fait. Alors, il y a des effets plus classiques qui permettent de gagner des pions ou de l'endurance. Mais, et puis, il y a des effets très circonstanciés où, ben, ça va être si dans le match complet, ton adversaire est plus avancé. Je crois que ça, c'est une carte de Fischer. C'est parce qu'il est plus avancé sur le match de manière générale que toi, tu vas avoir un bonus. Inversement, dans le tir à la corde de la partie en cours, il est de ton côté, tu vas gagner plus. Des trucs comme ça. Et c'est vraiment des effets assez, assez forts et c'est super important, en fait, dans ce genre de jeu parce que ça repose là-dessus, quoi. Les effets 5 sont complètement claqués, mais du coup, si tu arrives à les appliquer, c'est super, mais du coup, l'autre va peut-être pas te laisser les appliquer, mais en même temps, bah, du coup, il te concède un peu. En général, tu les joues sur des endroits.
Forcément, tu gagnes plus facilement.
C'est ça. Et en général, les cartes fortes, tu les mets sur des endroits où ça va te rapporter beaucoup, ouais. Tu vois. Mais en même temps, le 4, ça va te rapporter beaucoup, mais si tu le gagnes, ça va te faire perdre un endurance mentale. Donc là aussi, tu as plein de petits dilemmes. Et ouais, et alors il y a aussi un autre jeu auquel il a été beaucoup comparé. C'est Watergate, qui est aussi chez Capstone et Pegasus Spiele et tout, donc c'est ouais. Les mêmes éditeurs de base. Mais ça a été édité en français, non chez Gigamic, mais chez Yellow.
C'est aussi un jeu que pour deux, ouais.
Et j'avais jamais joué à Watergate, alors qu'il date déjà de 2019 et tout, et qu'il a plutôt bonne réputation. J'ai joué cette semaine, du coup. J'ai trouvé ça très bien. C'est pas de Paolo Mori, hein, c'est de Mathias Kramer. J'ai trouvé ça vraiment super. Effectivement, il y a le côté contexte historique. En plus, on est aussi dans les années 70 avec Nixon, je crois. Je sais plus, c'est la fin des années 60 ou 60. Non, c'est 72 aussi, Watergate, je crois.
C'est les débuts 70, ouais, il me semble.
Ou 71, peut-être. Et du coup, c'est vrai que c'est très bien. Hein. Effectivement, j'ai bien kiffé. C'est parce qu'il y a un peu... Je comprends pour le coup...
74.
74, merci. Je comprends l'affiliation parce que c'est aussi un jeu de cartes principalement où tu vas appliquer des effets ou bien il y a aussi le système de tir à la corde où tu vas tirer des éléments à toi pour essayer de gagner ou quoi, de gagner certains trucs ou de... Il y a la dynamique spatiale qui est différente puisque tu vas essayer de poser des preuves sur le plateau pour relier Nixon à des informateurs. J'avoue que je pense que je préfère même Watergate aujourd'hui, tu vois. Enfin, j'ai fait qu'une partie de Watergate mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dedans, notamment parce que dans le match du siècle, je regrette un truc quand même, c'est que je l'ai dit, on a deux decks, un deck par personne. Il y a quelques effets qui sont spécifiques, mais l'asymétrie est pas si présente que ça. Il y a la piste d'endurance qui est pas exactement la même non plus, mais par exemple, les valeurs sur les cartes, c'est exactement les mêmes des deux côtés.
C'est symétrique, ouais.
C'est symétrique. Il y a beaucoup d'effets qui sont symétriques aussi. Et j'ai vraiment joué les deux, tu vois, pour essayer de voir si vraiment le sentiment de jeu était différent si je joue Spassky ou Fischer, notamment si ça représente, tu vois, des façons de jouer aux échecs différentes. Mmh. Alors, un petit peu via les effets, pas tant que ça quand même. J'aurais préféré plus d'asymétrie, et je pense que dans Watergate, par exemple, l'asymétrie est beaucoup plus forte. Parce que tu joues pas du tout de la même manière, quoi. Il y a l'administration Nixon, elle essaye de récupérer des jetons rouges, là, pour monter à ça, ou bien de tenir le plus longtemps, tandis que du côté du journaliste, tu vas essayer de relier des trucs sur un plateau. Et, alors évidemment, quand t'es Nixon, tu vas aussi essayer d'empêcher l'autre de faire ça, mais du coup, je ressens plus d'asymétrie quand je joue au Watergate des deux côtés, que dans le match du siècle. Et effectivement, alors, ça se joue sur les cartes, ça se joue avec du tir à la corde, mais il y a la dynamique spatiale qui fait que c'est pas vraiment le même jeu non plus, même si je comprends un peu l'affiliation du fait de jeu à deux et tout. Il y a aussi le côté hasard et contrôle finalement dans le match du siècle, alors c'est peut-être pertinent vis-à-vis du thème, mais dans le match du siècle, bon, le hasard vient de la pioche des cartes, après t'as plus de hasard, quoi. Après, tout dépend du choix des autres. C'est plus de l'affrontement psychologique vis-à-vis de ton choix des cartes que vraiment de... Alors que dans Watergate, il y a un peu plus de hasard, il y a... Bah, la pioche des cartes, comme dans le match du siècle. Mais t'as aussi les preuves, tu sais, qui sont face cachée de base si t'es le journaliste et qu'il y a un peu de prise de risque. Donc il y a plein de petits éléments comme ça que j'aime bien, que je préfère en termes d'équilibre, de hasard et de contrôle dans Watergate. Après, encore une fois, là, on est dans un jeu d'échecs, du coup, le fait de privilégier le côté contrôle et de limiter le hasard, c'est pertinent vis-à-vis du thème, quoi. Donc ouais, beaucoup aimé, notamment, bah, tu l'as compris, mais le côté sacrifice, ça arrive souvent de sacrifier des parties, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la tension qui se dégage, j'aime beaucoup les effets de cartes, j'aime beaucoup tous les petits choix qui existent, et avec si peu de choses, je trouve que c'est très très bien équilibré. Je regrette le fait qu'il y ait pour moi pas assez d'asymétrie dans le sentiment de jeu, notamment. Je regrette aussi un truc, c'est après plusieurs parties, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est un peu trop équilibré. Il y a un truc cool, c'est que ça enlève pas la tension pendant la partie, tu vois. C'est-à-dire
parce que tu t'as jamais un moment où tu te dis bon bah c'est en fait il faut encore jouer 15 minutes mais je sais déjà que j'ai perdu quoi.
Non, par contre il y a des moments où tu sais que ce que tu vas faire de ta partie. Tu sais que tu vas être une partie sacrifiée ou une partie où tu... Mais le fait est qu'en termes de dynamique, alors peut-être que ce sera moins le cas après plus de parties, je sais pas, mais ou bien que c'est parce que je joue trop avec les mêmes personnes, ça c'est possible aussi. J'ai l'impression quand même les parties se ressemblent un peu. C'est-à-dire que on finit souvent à donc ça va jusqu'à 6 points pour gagner. On finit souvent à 6-5 ou 6-4 quoi. Et alors c'est rigolo parce que du coup si le tir à la corde finit au milieu, il y a un truc de game design qui est malin, mais c'est que les deux personnes avancent sur la piste de score.
Okay.
Ce qui permet d'aller vers la fin de partie quand même. Et si si on est à 5-5 et qu'il y a égalité, on avance tous les deux sur le 6. Et du coup, c'est Spassky qui gagne parce que c'était le champion en titre à l'époque. Et ça, je trouve ça trop cool. C'est un peu comme dans FIFA Cross Snow, où s'il y a égalité, j'ai un souvenir d'égalité après une très longue partie de découverte, ils disent c'est le français qui gagne. Alors, c'est pas tellement question de thématique, je crois que c'est vraiment plus mécanique ou quoi, mais voilà. Je trouve que thématiquement, ça marche bien, tu vois. C'est, bah ouais, il y a égalité, c'est Spassky parce qu'il avait besoin que de 12 points alors que Fischer avait besoin de 12 points et demi. Je rentre pas dans les détails parce que voilà. Mais du coup, souvent, ouais, on finit en fait à 6-5, 6-4. Parce que en fait, bah, t'es vraiment dans une espèce de up and down, tu vois. Tu vas gagner un match ou deux, enfin une partie ou deux. Et puis après, il va falloir que tu gères ton endurance mentale. Donc en fait, tu vas sacrifier une ou deux parties. Et puis après, tu vas essayer de remonter des pions pour être plus flexible. Donc voilà. Et du coup, en fait, comme c'est un jeu que à deux, tu vois, il n'y a pas le côté synergie et dynamique de groupe qui peut exister et qui va faire que...
Et d'auto-balance...
Bah parce que là, en fait, si tu perds, ben forcément, l'autre gagne, quoi. Mmh. À moins que vraiment, t'aies pas le même niveau de jeu, mais... Franchement, c'est pas un jeu très compliqué à appréhender.
Faudrait vraiment faire n'importe quoi pour.
C'est ça, pour faire un score.
Score très contrasté.
Ou bien avoir énormément de chance au niveau de la pioche. Mais franchement, j'ai pas l'impression que ce soit le cas parce que, comme dit, comme les pouvoirs sont très bien, t'arrives toujours à faire quelque chose avec ta main. Et si c'est pas là, ben c'est un truc à plus long terme. Et du coup, ouais, je trouve que les dynamiques sont trop similaires de partie. Enfin, que ce soit en jouant Spassky ou Fischer. Et de partie du match du siècle en partie de match du siècle, tu vois. Ça, c'est un peu dommage. J'attends de voir. Peut-être que ce sera moins le cas, tu vois, si je joue avec d'autres personnes ou
quoi. Parce que du coup, c'est un peu embêtant sur un jeu qui est que à deux où, bah, il y a moins de contexte de rejouabilité, quoi. C'est vrai que quand sur des jeux à plus, vu que tu changes potentiellement plus de joueurs ou que t'as plus de joueurs qui sont impliqués dans la partie, t'as un peu de rejouabilité qui vient par le contexte, ouais. Dans un jeu à deux, c'est moins le cas, effectivement.
Ouais, et puis encore une fois, comme le système est quand même assez fort, tu vois, et que tu peux pas trop en sortir, ça laisse pas... J'ai pas l'impression que ça laisse trop place à de l'originalité en termes de jeu. J'ai l'impression que tu vas un peu jouer tout le temps en te disant, bon, bah là, il faut que je gère mon endurance, parce que c'est tellement important que je peux pas me... Je pense que tu peux faire une partie où tu le laisses un peu descendre, mais pas trop. Et du coup, si tu le laisses un peu trop descendre, après, ben, il faut le récupérer. Et pour le récupérer, il faut que tu perdes des matchs et tout. Et donc, j'ai l'impression que ça laisse peu de place un peu à la personnalité du joueur ou de la joueuse de s'exprimer ou à des trucs très, très originaux. Ce qui est un peu dommage. Quand bien même, encore une fois, les effets de cartes sont vraiment assez cool, tu vois, et ont de la personnalité. Le jeu en lui-même, le système permet moins de personnalité que ses cartes, quoi.
Ok.
Donc ça, c'est un peu mes, tu vois, j'étais plus enthousiaste aux premières parties qu'aux suivantes.
Ouais. Je comprends.
Tu vois, ça reste un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est en termes de game design assez brillant, en termes de exemple. Mais bon, ça, il savait déjà le faire. En fait, il n'avait pas besoin du match du siècle pour prouver qu'il était très fort pour gérer les enjeux choix et hasard, contrôle hasard et tension, notamment. Enfin, c'est des jeux. Il arrive à faire des jeux où il y a toujours beaucoup de tension, où tu vis beaucoup de choses pendant la partie. Et ça, c'est cool.
T'as fait combien de parties pour info?
J'en ai fait 5 pour l'instant.
Ok.
J'ai, comme dit, alterné exprès de... J'ai joué quand même avec 3 personnes différentes, dont le pote qui est fort aux échecs, mais bon, ça lui sert à rien.
Oui.
Si ce n'est que, lui, tu vois, il m'a dit, bah, en fait, quand tu joues aux échecs, l'aspect très romantique et tout, en vrai, lui, il dit, alors, je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais en gros, franchement, Spassky et Fischer, je pense qu'ils en avaient rien à foutre du contexte de la guerre froide, quoi, ils faisaient leur match. Je sais pas si c'est tout à fait vrai.
Ouais. Après, dans n'importe quel affrontement ou même dans n'importe quel sportif, l'aspect mental joue quand même pas mal, tu vois. Enfin,
carrément, surtout à très haut niveau,
oui,
en fait. Ben...
En fait, tu sais que mécaniquement, ils sont tous les deux très forts, mais après, c'est sur la concentration et sur le mental que ça peut se jouer, quoi.
Ouais, ou sur les blessures.
Surtout aux échecs.
Je pense à Raphaël Nadal. Du coup, ouais, il y a vraiment pas mal de trucs qui sont intéressants. Il y a aussi plein de petits détails qui sont drôles. Il y a ce mélange de la pioche qui apporte, qui a l'air de rien, tu vois, de perdre une endurance mentale en mélangeant sa pioche. Et finalement, c'est un truc où c'est important parce que comme tu la mélanges avant, bah, ça peut jouer sur ta taille de main à la prochaine partie. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, et ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait de faire égalité à la fin et que c'est Spassky qui gagne. C'est chaque personne a 16 cartes, ce qui fait que t'as 32 cartes, et en tout, et il y a 32 pièces d'échecs. Moi, je trouve ça trop cool. C'est des détails.
Bah, je pense que c'est...
Mais c'est trop bien, quoi. Ouais. Je trouve ça... En fait, quand tu t'en rends compte, tu te dis... C'est génial. Tu vois, ils auraient pu en mettre 17 en termes d'équilibre, on s'en fout, je pense. Mais juste, c'est le petit détail qui fait la différence. Je trouve ça trop cool.
Ouais, bah, c'est pour coller au plus près de la thématique. Si
ouais,
c'est pas...
Et t'as, sur les cartes, du coup, en termes de thématique. Alors, il y a un petit livret historique, je reviendrai dessus, qui accompagne le jeu. Qui explique surtout le contexte, qui est plus gros que le livret de règles, mais qui explique le contexte de la guerre froide, qui présente un peu Spassky et Fischer, qui présente aussi un peu des déroulements de certaines parties et tout. Sinon, sur les cartes, il y a des petits journaux, enfin des trucs de journaux. Alors, je pense qu'il y a des images d'archives et il y en a qui sont un peu plus... Il y a une carte d'aide de jeu aussi, oh, franchement, t'en as pas trop besoin, mais c'est bien qu'elle soit là. Alors, il y en a, c'est plus des termes et tactiques d'échecs.
Ouais.
Donc, je sais pas, le rock ou des trucs comme ça. La majorité de pions, tu vois, sur... Bon, moi, j'y connais rien, mais tu vois, bref, tu retrouves quelques trucs. Et après, t'as des trucs de contexte où Fischer demande de retirer entièrement les caméras. Souvent, c'est quand même lié à l'effet de la carte, tu vois. Et par exemple, t'as Spassky est confiant qu'il peut gagner le titre. Soit tu abandonnes la partie et tu gagnes plus un mental, tu vois, genre, bon, bah, celui-là, je peux me permettre de le perdre. Ou bien tu gagnes des cartes. T'as le truc où Fischer demande l'entière le retrait des caméras, c'est tu prends une carte random de Fischer et tu la défausses. Tu vois, un peu genre en secret. Et en fait, souvent, c'est... Alors, franchement, j'y ai fait attention que pour préparer l'émission, hein, sinon je m'en foutais. Soyons honnêtes. Mais je trouve ça parfois rigolo, la manière dont ils ont réussi à assembler...
À adapter les effets par rapport à des... Par rapport à des faits ou des situations historiques, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mal. Alors, je pense clairement, ils ont fait l'effet d'abord, et après, ils ont cherché un truc à mettre...
Oui, un truc qui collait un petit peu.
Malgré ces détails, il y a quelques incohérences. Voilà, bon, déjà, j'ai parlé du fait que normalement, c'était joué en 21 parties, là, tu fais maximum 11 parties, des trucs comme ça. Il y a aussi le fait que il y a certains textes et la couleur jouée réellement lors de la partie qui me paraissait incohérent. Par exemple, c'est un texte qui va être genre « Fischer gagne ». Alors que c'est tu joues du côté noir, alors qu'en fait c'est genre il gagne la sixième partie ou une connerie comme ça, majestueusement ou je sais plus quoi. Voilà, Fischer, donc c'est dans le deck de Fischer. Fischer gagne le jeu 6 avec de manière presque parfaite. C'est le 5 noir, sauf qu'à la sixième partie il jouait blanc. Tu vois, c'est du détail, hein, mais voilà, c'est il y a quand même quelques petites incohérences ici et là. Il y a aussi, alors là on va être aussi dans le détail, mais je vais parler un peu du thème, le fait que le deck de Fischer est plus drôle dans ses thématiques. C'est-à-dire que je te parlais des liens entre le texte et les faits, je les trouve plus rigolos, ce qui colle un peu avec l'image plus fantasque de Fischer.
Hein.
Et le truc, c'est qu'en plus, alors je sais pas si c'est parce que c'est un jeu américain ou quoi, mais t'as l'impression que c'est plus centré sur Fischer que sur Spassky, parce que Spassky, il a beaucoup de cartes où ça va être des effets d'échecs, ou bien où ça va être, en fait, même dans le deck de Spassky, plus des trucs liés à Fischer, quoi. Bon, voilà, c'est du détail, mais c'est vrai que Spassky paraît un peu laissé de côté là-dedans en termes de thématique. La thématique maintenant quand même, ça pourrait faire un autour de jeu le match du siècle. Il y a plein de trucs qui ont été faits sur le match du siècle, il y a Le Prodige notamment que j'ai pas vu du tout, il y a plein de documentaires et tout. Donc je trouve que, alors je l'ai dit, on peut y jouer sans jouer aux échecs, c'est vraiment une envie de démontrer, tu vois, par la piste d'endurance mentale et la tension qui se dégage du jeu, plus le sentiment de jeu de la guerre froide et de l'importance du match pour à cette époque dans ce contexte. Tu vois, la tension qui pouvait exister, que vraiment un côté stratégique qu'il y a dans les échecs, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a... En fait, ça aurait pu complètement être un autre thème, tu vois, dans l'absolu. Et le thème colle plutôt par plein d'éléments. L'aspect tension et tout marche, mais en vrai, bon, ça aurait pu être un autre thème que ça m'aurait pas choqué. Il y a quand même effectivement cette notion de tension, sûrement de sacrifice, tu vois, qui existe dans certaines pièces. Là-dessus, je suis pas assez expert sur... N'hésitez pas dans les commentaires à me dire tout ça. Mais j'ai l'impression plus que ça essaye de donner une certaine image mentale et d'épinal des échecs et d'un match d'échecs au niveau de la tension qu'il peut y avoir que de retranscrire vraiment les échecs. Ce qui me dérange pas. D'autant que je pense qu'il y a aussi beaucoup de romantisme autour de et de storytelling autour de ce match, de cette période, de l'importance du match dans cette période. Tu vois, c'est du symbole en fait.
Oui.
C'est du domaine du symbolique. Le symbole est très important, tu vois. Enfin, le fait qu'il gagne, Fischer, c'est important dans le contexte de la guerre froide. Mais c'est du symbole en fait. En vrai, qui gagne, on s'en fout. Enfin, ça va pas changer la face du monde vis-à-vis des gens qui vivent la guerre froide, tu vois. Mais en termes de symbole, c'est important. Et j'ai l'impression qu'il y a plus cette envie-là, un peu de retournement de situation. Et tout, que vraiment le sentiment que pouvaient peut-être avoir les deux joueurs. Enfin, quand même, je reviens donc sur Fischer, parce que moi, je connaissais pas du tout tout ça. Je l'ai dit, c'est un thème qui est pas facile, parce que Fischer était donc un antisémite. Je vais pas revenir sur tous ses propos, aller voir sa page Wikipédia, mais, par exemple, hein, il disait que, au début des années 60, hein, c'est pas quelque chose qui lui arrivait plus tard, c'est un personnage assez haut en couleur, là-dessus, il y a plein de sources et d'éléments sur lesquels vous pouvez vous renseigner, qui a apporté a priori pas mal en termes de conditions des joueurs, d'échecs. C'est avec des revendications fortes et tout, vis-à-vis des conditions de tournoi ou des trucs comme ça. C'est aussi un mec qui, effectivement, a eu des propos très polémiques, qui était anti-soviétique, anti-sémite, qui a été poursuivi par les États-Unis à partir de 92 parce qu'ils ont fait un match retour en Yougoslavie qui était sous embargo américain, qui ensuite est allé au Japon, en Hongrie, en Philippines, qui a fini en Islande, mort, après avoir demandé la nationalité, je crois, vers 2005, sachant que le match de 72 était en Islande. Bref, voilà, un personnage haut en couleur. Et par exemple, voilà, au début des années 60, donc il a pas attendu d'être célèbre pour avoir ce genre de propos, il a répondu à des questions sur « Vous trouvez pas qu'il y a beaucoup de juifs qui sont en haut des échecs ?» et tout. Il dit « Oui, oui, je pense que d'ailleurs, ils enlèvent beaucoup à la classe de ce métier parce qu'ils arrivent mal habillés et tout. » Et par exemple, dernier truc, mais 2001 était un jour merveilleux, le 11 septembre, parce que voilà, ça a permis de mettre un bon coup. C'était sur une radio philippine, vous pouvez trouver la transcription. Un jour merveilleux parce que voilà, ça apprendra à ces sales juifs d'américains, en gros. Là, je paraphrase, mais c'est le genre de propos qu'il a pu tenir.
Alors que sa propre mère était d'origine juive.
Ouais. C'est ça. Et alors, ouais. Et du coup, il y a dans le livret historique, il y a quelques notions de ça. Il y en a peut-être pas assez à mon goût. Alors, c'est vraiment un jeu qui se concentre sur le match et pas sur ses personnages. C'est-à-dire que cet aspect-là de Fischer, tu le retrouveras jamais quand tu joues. Ni dans le fluff, ni dans rien. C'est-à-dire que les cartes, tu vois, ils auraient pu mettre des cartes de Fischer qui montrent un peu quel personnage c'est. Ils ont choisi de pas le faire. Moi, je le savais pas avant de jouer. Et j'avoue que j'aurais bien aimé le savoir. Parce que je pense que pour certaines personnes, et je pourrais tout à fait le comprendre, t'es obligé dans un jeu à deux comme ça, d'incarner Fischer ou Spassky. Donc t'es obligé d'incarner un mec qui a eu ce genre de propos. Alors ok, c'est dans le jeu, mais je pense que c'est bien de le savoir quand même avant. Parce que ça peut, tu peux juste pas avoir envie de jouer et de faire gagner un mec comme ça, quoi. Voilà. Et donc, dans le livret historique, il parle, effectivement, ils disent clairement le terme antisémite et tout. Sa défense, c'était non, je suis pas antisémite, je suis pas anti-arabe et les arabes, il y en a des sémites. Voilà. Reste que le livret historique est un peu je sais pas si complaisant est le terme, mais en gros, il dit, il aimait peut-être pas les juifs parce qu'il était en conflit avec sa mère qui elle-même était juive, ainsi que son maître d'échecs qui lui aussi était juif. Tu vois, de la psychologie un peu de comptoir. Mmh. Comme si, bon, bah voilà, il était antisémite, mais peut-être que ça peut se comprendre. la façon dont c'est formulé, j'ai pas été très fan de ça. Et c'est vraiment un paragraphe, sinon ça se concentre vraiment plus sur le contexte, etc. Donc voilà, sachez-le, sachant que par exemple, tu vois, il y a un jeu comme Votes for Women, qui est plutôt axé card-driven, qui parle du mouvement des suffragettes, où t'as quelqu'un qui incarne normalement le gouvernement, l'opposition, et un autre joueur ou une autre joueuse qui incarne le mouvement, qui est pour le vote pour les femmes. Et ben, vu le sujet, les designers, la designeuse en l'occurrence, s'est dit, ben peut-être que t'as pas envie d'incarner des gens qui vont interdire le vote des femmes, et du coup, elle a proposé un mode coopératif où tu te bats contre le gouvernement. C'est intéressant, tu vois. En termes de thématique, de se dire, bah, en fait, t'as peut-être pas envie d'incarner un truc réactionnaire et fasciste, ou antisémite, ou quoi, et ben, tu peux le faire. Alors, est-ce que, d'un point de vue de game design, ça affaiblit pas la proposition, peut-être? D'un point de vue du ressenti, ça permet peut-être à plus de monde de s'y projeter. Donc voilà pour ce qui est du thème. Je tenais quand même à le dire, c'est-à-dire que vous ressentirez jamais, si vous savez pas que Fischer était un sac à merde, vous l'apprendrez pas avec le jeu, sauf à lire le paragraphe en question du contexte historique. Et je trouve que c'est un peu prendre à rebrousse-poil, tu vois, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus clair. Alors, encore une fois, sur Wikipédia, t'as de quoi te documenter.
Après, c'est déjà bien qu'il y ait un livret historique qui le mentionne, tu vois, ça pourrait...
Ouais. Bon, et il y a même toute une bibliographie et tout, vraiment avec des films, avec des articles et tout. Donc ouais, c'est bien. J'aurais bien aimé que ce soit précisé peut-être dans le livret de règles, un peu un genre de trigger warning, tu vois. Parce que si tu t'intéresses pas entre guillemets au monde des échecs, oui. Ben, ça tu le sais pas quoi. Après, c'est quelque chose de très connu dans le monde des échecs, la personnalité de Fischer, etc. Quoi. Donc voilà. Là-dessus, donc. Pour finir, je suis un peu moins enthousiaste que quand je l'ai découvert. Je trouve que ça reste un excellent exercice de game design, que Paolo Mori est très fort. Honnêtement, vu ses positionnements politiques, en tout cas que j'imagine, vu les autres jeux qu'il a fait, parfois plus engagés, je suis étonné qu'il ait pas essayé de personnaliser un peu plus Fisher sur son côté. Parce qu'il y a ça, mais il y a aussi le côté un peu rockstar, hein, je l'ai dit, il arrivait en retard, des trucs comme ça, il voulait plus les caméras, etc. Ça manque un peu l'explosivité de Fisher, parce que je le connais un peu moins. Donc ouais, un peu moins enthousiaste. Je pense qu'en termes de game design, c'est ma sortie préférée de 2024. Je trouve que c'est vraiment en termes d'émotion ce que j'aime ressentir. Que justement les enjeux de choix et tout, ils sont très bien dosés. Cette histoire d'initiative, ce côté où des fois bah t'as envie de perdre l'échange pour appliquer les faits, ou ce côté où bah tu sais que tu vas perdre des points. C'est Cyrus qui m'avait aussi fait découvrir, ça m'a fait pas mal penser à Time Division, qui est pas du tout dispo en français, qui était assez intéressant aussi de ce point de vue-là, où tu voyageais à travers le temps, et là aussi, t'avais un côté où posait chacun une carte, et la personne qui gagne ben, prend la carte de son côté, donc ça l'a fait avancer, l'autre applique les faits, donc c'est un moyen de se préparer pour essayer de faire mieux après. C'est des dynamiques que moi j'adore, en termes de tension, en termes d'enjeux et de choix, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, avec les nuances que j'ai dit sur l'asymétrie, qui aurait pu être plus présente, tu vois, pas dans le but du jeu, parce que c'est délicat, puisque le but du jeu d'échecs, c'est de gagner, plus dans les dynamiques, pour représenter un peu plus des styles différents, et également cet équilibre peut-être un peu trop équilibré, qui enlève pas la tension lors de la partie, mais où t'as un peu l'impression qu'à chaque partie, tu vas finir à pas grand-chose, et je sais pas, à voir après plus de parties ou avec d'autres personnes, mais j'ai quand même cette impression-là, donc ça vient un peu ternir mon ressenti. Mais ça reste un jeu que je conseille beaucoup, jouer aussi à Watergate, qui effectivement est très bien, et jouer aux autres jeux à deux de Paolo Mori, qui ont aussi cette tension-là, si vous avez aimé le match du siècle. Donc voilà, je sais pas si tu veux rebondir ou quoi, mais...
Non, bah, je pense que ça a été assez complet, je n'y ai pas joué, j'ai pas forcément d'avis à donner, mais en tout cas, tu m'as suffisamment... donner envie de l'essayer à l'occasion pour me faire mon propre avis.
Yes. Donc pour revenir sur la fiche signalétique, donc c'est un jeu de Paolo Mori exclusivement, illustré par Clemens Franz / Atelier 198, c'est la même personne, édité en français par Gigamic à 28,90 chez La Caverne. 10 ans parce qu'encore une fois le système est simple, reste que les choix, t'as différents termes pour gérer les choix, c'est faut gérer les choix à long terme, à moyen terme et tout. Donc. Voilà, deux joueurs ou joueuses exclusivement, une quarantaine de minutes, ouais, ça c'est clean. Hein. Fabriqué en Chine, sans avec les trucs des forêts autogérées, non, c'est pas ça, c'est les forêts dont le bois est bien géré. Les forêts autogérées, ça serait incroyable. Mais fabriqué en Chine, du coup. Et le matériel, ouais, les petits pions et tout, c'est du bonus. Hein. C'est agréable de pouvoir manipuler les petits pions en bois. Des punchs auraient suffi. Pionfesseur dirait sûrement que c'est surédité, ce que je pourrais défendre aussi au niveau du matériel. Bon. C'est là pour le thème, tu vois, mais encore une fois, comme le thème aurait pu être autre chose, je pense que des punchs auraient aussi bien fait l'affaire. Voilà pour le match du siècle. Je te propose qu'on reste avec... Ah si, j'avais une blague. Jérémy, un pote qu'on connaît tous les deux, tu l'as déjà faite. Je l'ai déjà faite à plusieurs personnes.
Ouais. C'est dangereux d'annoncer ces blagues.
Ouais, je sais, mais on peut dire que si le jeu que tu fais, c'est plutôt du Paolo Mori assez mainstream que tu vas parler, assez casu, au sens que ce soit plus normatif, et ben le match du siècle, c'est plutôt du Moriarty. Voilà.
Okay.
Je te propose de laisser un blanc avant de passer à ton jeu.
Ouais, ou de mettre un petit son de batterie. pour le second jeu, bah, comme on l'a déjà annoncé en début d'émission, je vais vous parler de Captain Flip, qui est une sortie assez récente du coup, et qui est un jeu de Paolo Mori, mais pas seulement. Il est co-auteur avec Remo Conzadori, que je ne connaissais pas personnellement. Je ne sais même pas s'il a fait d'autres choses.
Il a fait Rice, qui est un bon jeu.
Ah oui, il a fait Rice. Oui, tu en as parlé.
Et Three Ring Circus aussi, qui devrait arriver chez nous. Amule aussi, ouais. Si, il a fait quand même pas mal de jeux. Il a fait avec Paolo Mori Fairy Tail Inn. Je ne sais aussi. Plus comment ça s'appelait en français. Mais,
mais c'est sûr qu'on connaît un peu plus Paolo Mori, du coup, sur ce co-autorat. C'est illustré par Jonathan Aucomte, donc illustrateur français, qui a notamment travaillé sur Trek 12, La Maison des Souris, je crois aussi, et la réédition de Marrakech, alors celui de Dominique Erhardt, pas celui de Stefan Feld. Hein.
Ah oui.
Puisque celui de Stefan Feld est assez récent, trop récent pour avoir une réédition. C'est édité chez Playpunk, du coup c'est le premier jeu de Playpunk qui est la maison d'édition fondée par Antoine Boza et Thomas Provost.
C'est distribué par Asmodée, c'est pour 2 à 5 joueurs ou joueuses, sachant qu'il y a une règle solo aussi qui est disponible, donc qui était dans un sous forme de goodies, mais dont vous pouvez trouver la règle sur BGG aussi, et qui est la règle solo est applicable sur le jeu de base en fait. Vous n'avez pas besoin du plateau goodies forcément pour jouer en solo. C'est donné à partir de 8 ans pour des parties données à 20 minutes. Alors je dirais plutôt que c'est une durée par joueur, parce que forcément ça va beaucoup plus vite quand on joue à 2 que quand on joue à 5. Donc je dirais plutôt que c'est entre 5 et 10 minutes par joueur. C'est fabriqué en Pologne, donc ça c'est un bon point aussi, mais on reviendra un petit peu sur l'édition. Et c'est disponible au prix de 24,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Alors pour le contexte du jeu, vous incarnez un capitaine pirate qui, durant la partie, va devoir recruter le meilleur équipage possible. Et il va recruter cet équipage en tirant des tuiles. Petite anecdote, le prototype qui s'appelait Keep or Flip n'avait pas ce thème autour de la piraterie. Les auteurs avaient travaillé deux versions, deux thèmes différents. Ils pensaient plutôt à des univers à licence, puisqu'ils avaient fait une version Star Wars. Il y avait une édition Alice au Pays des Merveilles aussi, sur la partie proto. Donc ils étaient plutôt partis dans des univers un petit peu connus. Et ça, c'est les éditeurs, donc Antoine et Thomas, qui ont convaincu les auteurs que le jeu était suffisamment fort pour pouvoir fonctionner sans licence, ouais.
Ouais, j'ai aussi lu sur BGG, il y a eu des propositions fan-made, on en parlera, mais notamment une proposition fan-made un peu sur le thème de One Piece.
One Piece, ouais, bah, qui reste dans la piraterie, mais effectivement, ouais.
Et l'auteur a dit, on dirait notre proto, alors je sais pas s'il parlait de One Piece ou pas, parce que, voilà, mais je pense que ils sont plus ou moins, Paolo Mori des années 70, donc je sais pas s'il a lu One Piece, mais voilà, une autre licence qui collait à la piraterie pour le coup.
Ouais, pour le coup, qui était dans la même thématique. Bon, en tout cas, si vous voulez un petit peu plus d'anecdotes sur ce jeu et sur Playpunk, on a eu l'occasion d'interviewer Antoine Boza et Thomas Provost lors du Festival International des Jeux de Cannes. Et l'interview devrait sortir autour de fin mai. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille si vous voulez un petit peu plus d'anecdotes, justement, sur le jeu, sur l'édition de ce jeu, qui d'ailleurs était signé chez un autre éditeur avant d'arriver chez Playpunk. Voilà, y a pas mal de petites histoires autour du jeu, donc n'hésitez pas à l'écouter à l'interview.
Tu connais l'anecdote de la création de Playpunk ?
Oui, oui, bah ils nous l'ont raconté aussi un petit peu.
Ouais. J'ai essayé qu'il va sortir chez Yellow, je pense que c'est un peu le seul.
Mais voilà, c'est pas impossible qu'ils sortent une autre version du même jeu, mais genre un peu... Une variante un petit peu de ce jeu-là. Enfin, je vous laisse aller écouter l'interview. Donc le principe de Captain Flip, c'est assez simple. Chaque joueur a devant lui un plateau qui est identique pour chacun des joueurs. Et ce plateau est composé de plusieurs colonnes qui comportent des emplacements pour poser des tuiles. Et en fonction du plateau, il y a toujours 5 colonnes. Et ces colonnes ont entre 1 et 5 emplacements. Il y a plusieurs plateaux en fait qui sont disponibles à chaque partie. On peut éventuellement jouer avec un autre plateau. L'essentiel, c'est que tous les joueurs jouent avec le même. À son tour de jeu, c'est assez simple, on va tirer une tuile dans un sac en toile qui contient plein de tuiles. On va la tirer, on va la regarder, et sur cette tuile va y avoir un pirate, et on devra alors choisir de recruter ce pirate là ou de retourner la tuile pour recruter celui qui se trouve au verso, parce que les tuiles sont recto verso. Voilà, faut, quand on tourne une tuile, faut pas regarder ce qu'il y a de l'autre côté, hein. Le jeu, c'est de regarder un côté.
C'est plus simple de choisir si on
veut... Ouais, de choisir si on veut le prendre ou pas, et si on veut pas le prendre, le retourner. Et dans ce cas, on est obligé de prendre le pirate qui est sur la face qu'on vient de retourner. On pose forcément au moins une tuile par tour. Au moins une, parce qu'il y a des tuiles qui nous permettent de rejouer, mais c'est toujours au moins une tuile par tour. En plus de ce choix de retourner ou non la tuile, on va devoir aussi choisir dans quelle colonne on va placer cette tuile. Et c'est une partie aussi importante du gameplay, parce que les colonnes se remplissent du bas vers le haut. Elles sont plus ou moins importantes, je vous l'ai dit, ça peut être de 1 à 5 emplacements. Donc il faut choisir dans quelle colonne on va la mettre. Et surtout, pourquoi c'est important ? Parce que déjà, il y a certaines colonnes qui vont nous offrir des effets ou des bonus quand elles seront complétées. Donc forcément, ça peut être intéressant. Mais surtout, en fait, les pirates vont scorer ou vont avoir des effets qui dépendent justement de la disposition que les tuiles ont les unes par rapport aux autres, en fonction du type de pirate. La plupart des pirates, du coup, ont des effets qui vous rapportent des pièces, qui sont les points de victoire en fin de partie, soit immédiatement, soit selon des conditions en fin de partie. Par exemple, sur cette importance de placement, il y a un type de pirate qui est nommé la Vigie, qui, en fin de partie, vous rapporte 4 pièces, donc 4 points de victoire, si et seulement si elle est placée au-dessus de tout autre pirate dans une colonne. Forcément, la Vigie, c'est celle qui observe, elle doit être tout en haut.
Moi, j'ai longtemps mal appliqué ce pouvoir.
Oui, elle n'a pas besoin d'être au sommet d'une colonne, elle a besoin d'être au-dessus de tous les autres pirates. Donc si la colonne n'est pas complète...
Même sur Board Game Arena, où il était disponible dès décembre, où j'ai beaucoup joué, en fait... Tu vois, Board Game Arena applique de base le truc, donc en fait, j'aurais pu m'en rendre compte. Mais non, à chaque fois, je me faisais un truc de mettre la Vigie en haut de la colonne, alors que ça change vraiment les trucs, hein, pour certains choix.
Oui, mais alors du coup, effectivement, à partir du moment où tu as une Vigie et si tu veux appliquer son pouvoir, si la colonne n'est pas complète, si tu veux bénéficier de son pouvoir, tu ne vas plus pouvoir mettre de tuiles au-dessus.
C'est ça.
Et donc, c'est quand même plus intéressant de la jouer tout en haut d'une colonne, ouais. D'autres exemples, par exemple, il y a la canonnière qui, elle, va rapporter 5 points de victoire, 5 pièces immédiatement. Mais attention, la canonnière, si vous en avez 3 de visibles à la fin de la partie, elle fait sauter, votre bateau, en gros. Elle vous fait perdre la partie immédiatement, donc faut un petit peu contrôler.
Meilleure idée.
Elle interagit aussi avec d'autres types de pirates, puisqu'il y a la charpentière, par exemple, qui va faire des points en fin de partie seulement... si elle n'est pas dans la même ligne ou la même colonne qu'une canonnière. Donc les charpentières et les canonnières ne s'entendent pas trop, puisque les canonnières ont tendance à faire des trous dans le bateau. Et donc elles ne doivent pas se voir en quelque sorte, elles ne doivent pas se retrouver dans la même partie du bateau, soit la même ligne, soit la même colonne. Donc c'est assez intéressant, et donc il y a plein comme ça d'effets, hein, qui vont vous inciter à réfléchir un petit peu au placement que vous allez faire de vos tuiles sur votre plateau, et dans vos colonnes et dans vos lits. Voilà, c'était des exemples. En tout, il y a 9 types de pirates différents. Il y a aussi d'autres effets qui vous permettront, je le disais, de rejouer immédiatement, donc d'accélérer un peu aussi la pose de vos tuiles.
Mais qui te fera des points négatifs en fin de partie,
ouais,
si c'est visible.
Qui apporteront des points négatifs en fin de partie si elles sont visibles. Mais il y a d'autres tuiles aussi qui vous permettent de retourner une tuile déjà présente sur votre plateau, une tuile adjacente déjà présente. Donc ça, c'est le singe, et donc ça vous permet de retourner des tuiles qui pourraient avoir des effets négatifs ou simplement qui ont déjà scoré, hein. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand une tuile score immédiatement, si vous la retournez, vous pouvez potentiellement appliquer l'effet qui est sur le personnage au verso, mais en ayant déjà eu le bénéfice en fait du premier personnage, ou alors pour tout simplement retourner des tuiles qui vous apportent des points négatifs, ou retourner des canonnières aussi si vous en avez 3, comme c'est synonyme de défaite en fin de partie. Vous pouvez toujours essayer de les retourner.
Même 2, parce qu'à 2, t'as toujours cette épée de Damoclès de putain. Maintenant, je peux plus me permettre de faire un flip parce que je vais tomber sur une canonnière.
C'est quand il y a 2 canonnières, effectivement, c'est un peu plus compliqué.
Et puis, tu peux commencer des combos où tu retournes la canonnière, pouf. Après, ça te fait un autre truc, et puis tu remets un singe à côté, tu retombes sur la canonnière pour regagner
5 points. Ouais.
Incroyable.
Donc il y a pas mal de le placement et un petit peu de mémorisation aussi de ce qu'il peut y avoir si on a eu l'occasion de voir le recto, le verso, surtout le verso d'une tuile, ça peut être bien hein, honnêtement je joue pas souvent avec, mais
tu peux essayer de mémoriser, ouais.
Mais ça peut être bien de mémoriser ça quand on a retourné une tuile, savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Pour éventuellement jouer avec ce genre de combo, comme tu le disais.
Ouais, tu sais que moi je suis nul en mémoire immédiate ou à court terme. Dans Trio, tu sais, c'est je demande 3 fois de suite la même carte, tu sais, à quelqu'un.
Ah ouais, non, là c'est gênant, effectivement.
Et là, du coup, dans Captain Flip, c'est pareil, tu sais. Je prends ma carte, je la regarde, je la flip, je la pose là, je me dis, le pouvoir de l'autre côté me sert à rien, et puis je vais mettre un sang, je me dis, tiens, vas-y là, ah merde, c'est celle que je viens de voir, et ça me sert à rien, et ça m'arrive tout le temps. Mais c'est un bon élément, la petite mémoire.
Mais je pense qu'elle est moins nécessaire, effectivement, dans Captain Flip que dans Trio. c'est moins gênant.
Oui, évidemment, parce que ça se repose pas là-dessus, ouais.
Et du coup, on va jouer comme ça jusqu'à. Qu'un joueur ou une joueuse ait rempli 4 colonnes sur les 5 qui composent son plateau. Donc ça peut aller plus ou moins vite, hein, comme il y a des colonnes plus ou moins grandes. On peut jouer un peu aussi sur un effet de course et de rush en essayant de terminer vite avec les colonnes avec le moins de cases possible pour essayer d'accélérer la fin de partie et de prendre un peu ses adversaires par surprise. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant. Il y a 4 plateaux dans la boîte de base, donc qui viennent avec justement des effets différents, des dispositions de colonnes, des dynamiques un petit peu différentes.
Notamment aussi sur un de ces plateaux-là,
ouais.
Il y a le drapeau pirate qui permet d'identifier immédiatement le premier joueur ou la première joueuse puisqu'on finit le tour à la fin de la partie.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est des bonnes idées.
Ouais, tout à fait.
faites ça, faites ça. Des cartes d'aide de jeu où vous mettez un start player. Des trucs, vous n'avez pas besoin de jetons premier joueur si vous avez des trucs comme ça. Et
oui, c'est ça, il y a un plateau par joueur et joueuse, et du coup, il y a un des plateaux de chaque type de plateau où il y a le symbole du premier joueur qui permet de terminer le tour, effectivement, parce que quand quelqu'un a rempli sa quatrième colonne, on termine le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de fois. Voilà, donc une variété sur les plateaux. Alors pour le coup, moi, j'ai fait plus d'une cinquantaine de parties, je pense, dont la très grande majorité sur BGA, hein. Tu as dit, c'est un jeu qui est disponible sur BGA et qui est particulièrement adapté, je trouve, à BGA, parce que ça va, voilà, c'est un jeu où il peut y avoir un peu de manipulation, de mise en place. On y reviendra, hein. Ça peut faire partie des côtés un peu négatifs du jeu sur la manipulation et ces petits aspects qui peuvent être un peu plus négatifs ou qui peuvent en fait augmenter la durée de partie, mais juste à cause de la manipulation, sont complètement effacés sur BGA, donc on peut vraiment très facilement enchaîner plein de parties. C'est un jeu qui m'a vraiment bien catché, qui m'a vraiment bien attrapé, hein, parce que les règles et les enjeux sont assez évidents et immédiats, c'est-à-dire qu'on comprend tout de suite comment ça se joue, et on comprend tout de suite qu'il y a un enjeu sur la disposition des pirates, sur le choix qu'on va avoir de flipper ou pas. Mais même si ça c'est assez immédiat, il y a quand même une compréhension assez progressive de la stratégie, des bons coups à faire, de quand il faut flipper ou pas, de quand il faut jouer, où il faut jouer telle tuile. Je trouve qu'il y a vraiment un sentiment de progression qui est super intéressant au fil des parties.
Brillant, ouais.
Donc ça, c'est vraiment agréable, en fait. On sent qu'on progresse et on sent qu'on comprend au fur et à mesure, même si on a compris les tenants et aboutissants du jeu rapidement, on comprend des subtilités au fur et à mesure des parties, et ça, c'est vraiment agréable. Alors, c'est un jeu forcément où le hasard est présent, hein, puisque on va piocher au hasard des tuiles, et pareil, l'ordre de sortie des tuiles peut être important. On disait, si on pioche des vigies au début alors qu'elles scorent plutôt quand on les met au sommet des colonnes, c'est pas forcément très simple, mais ça va induire aussi des comportements de jeu dans l'aspect de progression, de se dire bon bah, comme j'ai des colonnes qui sont qu'à 2 par exemple en placement, je vais essayer d'assez rapidement en mettre une sur ces colonnes à faible hauteur pour dire bah, dès que j'ai une vigie, en moins ça me crée un spot que je vais pas utiliser, que je vais garder un peu en réserve au cas où je tombe sur une vigie. Donc il y a ce genre de comportement qu'on n'a pas forcément au début sur les premières parties, qui viennent au fur et à mesure. Et donc oui, il y a pas mal de hasard, mais je trouve qu'il est vraiment bien contrebalancé par les choix, justement, que ce soit les choix de flipper ou non, ou le choix de positionnement dans les colonnes. Ça permet quand même de pas mal contrebalancer ce hasard. Le hasard est, enfin, pour moi, je le sens pas vraiment gênant. Alors, il y a des parties, des fois, où on a vraiment pas de chance, mais ça peut arriver. Mais globalement, même si on tire des choses qui nous arrangent pas, il y a toujours possibilité de s'en sortir et de jouer pas mal avec l'opportunisme de piocher telle ou telle tuile ou de flipper telle ou telle tuile. Par exemple, il y a une tuile, un pouvoir qui est le mousse, en fait.
Pareil, celui-là, je l'ai mal compris au début.
Ouais. Le mousse, en fait, c'est un peu une collection. Il va scorer en fonction du nombre de mousses que vous avez dans vos différentes colonnes.
C'est ça, dans les différentes
si
colonnes.
Si j'ai un mousse, ouais, vous pouvez pas mettre. Enfin, ça ne sert à rien de mettre plusieurs mousses dans la même colonne.
Moi, c'est ça que j'ai mal compris, mais ça, c'est mon biais de joueur, tu sais, où les collections d'habitude, c'est. Bah, il faut essayer d'avoir le plus d'éléments possible de ce truc. Et du coup, moi, je me dis, bah, ouais, ok. Et en fait, non, c'est beaucoup plus contraignant que ça, ce que je préfère, mais que j'avais pas bien compris au début.
C'est ça. Mais du coup, le mousse, il va scorer. Si vous avez un mousse dans chacune de vos 5 colonnes, je crois que c'est 20 points.
25.
Ouais. Ce qui est énorme, parce que, effectivement, les parties se jouent entre 30 et 50 points, globalement. En fonction de la vitesse et des tuiles qu'on pioche. Donc ça peut être très fort d'avoir des mousses. Et typiquement, le mousse, c'est assez opportuniste. C'est-à-dire, si je commence à tirer un ou des mousses en début de partie, bah, je vais plutôt jouer mousse, parce que il y a des probabilités que j'en ai entre 3 et 4 ou 3 ou 5, et ça devient très intéressant. Par contre, tirer un mousse en fin de partie alors que j'en ai pas joué, bah, il va y avoir très peu d'intérêt, donc je vais avoir tendance à flipper ou à utiliser, à pas jouer sur le mousse. Donc voilà, c'est vraiment de l'opportunisme aussi, en fonction de ce qui tombe et au moment où les tuiles vont tomber et où vous allez les récupérer. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant aussi. Moi, j'aime bien généralement les jeux d'opportunisme, les jeux où en fait il y a du hasard, mais tu te retrouves à optimiser ce hasard par rapport à la situation qui se présente, quoi. C'est vraiment, moi j'aime bien ce genre de choses, donc ce côté-là m'a beaucoup plu. C'est un jeu qui, de premier abord, peut paraître assez solo, dans le sens où on a l'impression que chacun joue un peu dans son coin
et va faire son propre équipage.
Le contre-exemple de ce sentiment solo, il suffit de dire que Cyrus a bien aimé le jeu.
C'est ça.
Alors qu'il aime pas du tout les multiplayer solitaires.
Ça.
Voilà.
Ça peut, en fait, ça, mais c'est vrai que les premières parties, ça a l'air d'être un peu un multiplayer solitaire.
Ouais,
ça,
ouais.
Ça peut l'être d'ailleurs hein, dans certains cas. Mais pareil, dans ce sentiment de progression et d'apprentissage au fur et à mesure des parties, on se retrouve quand même pas mal à surveiller ce que font les voisins. Déjà parce que il y a quand même quelques petits éléments d'interaction. Il y a notamment un pirate qui est le cartographe qui va vous permettre de récupérer une carte au trésor. Et cette carte au trésor, elle va vous rapporter un point de victoire tant que vous la possédez à la fin de chacun de vos tours. C'est un peu le tiebreaker, c'est le tiebreaker en cas d'égalité également aussi. Et donc ça, c'est vraiment le truc de, bon ben, faut pas laisser la carte à quelqu'un trop longtemps parce qu'à chaque tour, il va faire un point. Et en fait, il y a plein de moyens aussi de, typiquement sur le premier plateau, enfin il y a plusieurs plateaux, il y a ça, où quand vous remplissez une des colonnes, vous récupérez la carte. Donc ça aussi, il y a des mécaniques qui vont se mettre en place de, ben je vais jouer pour garder juste un emplacement pour... Quand j'aurai besoin de piquer la carte à quelqu'un, paf, je vais mettre ma tuile ici et je vais essayer de le piquer.
Et il y a aussi, moi c'est le seul élément, le cartographe. Alors effectivement, tu disais, il y a plein de moyens. À deux, le cartographe, je trouve qu'il est claqué. C'est-à-dire que sur une mauvaise partie...
Oui, ça peut être dur de le récupérer.
Où
ouais.
T'arrives pas, et franchement, pourtant, il y a des parties où tu sais que c'est important et qu'il faut pas, à deux notamment, puisqu'à quatre, il va plus circuler et tout. Mais à deux, ça peut faire vite 15, 20 points.
Mmh. Ouais, clairement.
Si ça circule pas. Et donc... Quand tu le sais, tu vas essayer de le choper et des fois, effectivement, la pioche va pas dans ton sens. Et bon, alors tu peux et parfois bah tu vas chercher la colonne où ça te donne, mais derrière l'autre prend exactement le cartographe. Moi c'est, tu vois, les mousses ça peut être inégal. Il y a plein de petites. Moi le cartographe c'est vraiment le seul où je me dis ben ouais, mais en fait là j'avais, enfin t'as gagné 20 points, je peux pas te rattraper et je peux rien quoi. Et c'est le seul qui peut me frustrer à deux notamment. Quoi.
Après c'est pas, enfin je suis d'accord avec toi. Que bah, sur des parties à 4 ou 5 joueurs, il va beaucoup plus tourner et donc il va être moins impactant sur la partie. Après, c'est pas non plus une. 20 points, ça veut dire. Enfin, faut y aller hein, pour faire 20 points sur le cartographe parce que ça veut dire qu'il faut faire au moins 20 tours. Généralement, il y a entre. Je sais plus, c'est maximum 15 emplacements, je crois, sur les trucs. Donc,
ouais.
Donc, ouais. Au maximum, déjà, il fait une quinzaine de points. Enfin, c'est dur de faire plus que 15 points, je pense. Et voilà, c'est pas un moteur de points énorme, c'est vraiment un moteur de points complémentaire. Et effectivement, ça peut faire la différence sur une partie à deux. Mais effectivement, c'est...
Ouais, c'est anecdotique.
Je suis d'accord avec toi, il a plus d'impact à deux qu'à 4 ou 5. Mais moi, j'ai pas ressenti non plus de déséquilibrage, ouais. En fait, par rapport à cette mécanique-là sur une partie à deux. Parce que j'ai beaucoup joué à deux. Hein. Sur BGA, j'ai fait beaucoup de parties à deux. J'ai fait des parties à plus, mais beaucoup de parties à deux. Donc ça, c'est effectivement un élément d'interaction directe. Et c'est d'ailleurs quasiment le seul élément d'interaction directe dans le jeu.
T'as la deuxième map quand même, des Kraken, tu sais.
Ah oui, où tu peux... Oui, effectivement, il y a une carte où il y a une course en fonction de qui remplit la colonne en premier. C'est une mécanique qu'on retrouve dans pas mal de jeux, hein, mais on va faire un certain nombre de points si on est le premier à remplir la colonne et un certain nombre de points inférieurs pour la plupart si on est le deuxième. Sauf une colonne où il n'y a qu'un seul emplacement, qui est un peu une colonne de dépannage justement pour les vigies, etc. Où là, on fera pas de points si on est le premier à la remplir.
Moi, je sais que cette map, du coup, comme j'aime bien l'interaction dans les jeux, alors tu l'as dit, hein, ouais. En vrai, il y a beaucoup d'interactions dans Captain Flip et c'est de l'interaction très subtile et très fine. Mais au premier regard, je me suis dit, ouais, c'est un jeu solo, effectivement. Ce qui n'est pas vrai, hein, encore une fois. Et du coup, cette map me parlait plus parce que du coup, il y avait de l'interaction et je me disais, ouais, franchement,
il y avait vraiment de la course et de l'interaction. Ouais.
Le problème de cette carte, c'est que toutes les colonnes ont les mêmes effets. Tu vois, et c'est tous le premier gagne ci, le deuxième gagne ça. Enfin, les suivants gagnent ça. Et du coup, c'est une carte un peu faible alors même que son idée me plaisait plus.
Ouais, je suis d'accord.
Je trouve ça un peu dommage.
Mais encore une fois, la variété des cartes permet d'avoir des profils de parties un peu différents aussi. Et c'est ce qui est intéressant dans ce jeu-là aussi, c'est qu'il y a plein d'aspects sur lesquels il va y avoir des petites variations qui font que les parties sont très différentes à chaque fois.
Alors dis-moi, je sais plus c'est quelle carte, je crois que c'est l'île déserte ou le radeau. Il y en a une où tu sais, tu gagnes 6 points à la fin de la partie si t'as mis 3 fois le même personnage
oui.
Dans la colonne. Quel personnage tu mets, toi?
Souvent des charpentières.
Ah ouais, moi je mets les cuistots.
Ouais, mais les cuistots, en fait, t'es trop dépendant de tes lignes et du coup... mais ouais. Non, si je peux, je mets des charpentières parce que... Alors après, ça permet de moins jouer les canonnières.
Moi, je joue beaucoup canonnières, tu sais. Hein. Moi, je joue beaucoup canonnières, je suis la prise de risque. Hein, donc... t'as déjà perdu avec les 3 canonnières, j'imagine.
Non, je crois que ça m'est jamais arrivé.
Ah ouais. Ah, moi j'ai perdu plein de fois.
Mais, j'ai déjà eu trois canonnières un instant T d'une partie, mais j'ai toujours réussi à la flipper. Ouais, j'ai toujours eu un peu de chance et réussi à les retourner ouais. avant la fin. Oui, sur les interactions, du coup, effectivement, il y a la carte et il y a le plateau que tu citais. Après, ça, c'est les interactions directes, du coup, entre les joueurs. Après, pareil, c'est quelque chose qui vient, je trouve, au fur et à mesure des parties. On fait de plus en plus attention à ce que les autres jouent et à ce que les autres ont. Premièrement, déjà parce que ça permet d'anticiper un peu la fin de partie. Si on fait pas gaffe, en fait, si quelqu'un rush, on peut très vite se retrouver à déjouer complètement parce qu'on n'avait pas du tout anticipé la fin de partie qui arrivait et du coup avoir joué des trucs un peu plus, des stratégies un peu plus sur le long terme, type les mousses, etc. Alors qu'on aurait dû faire beaucoup de points beaucoup plus rapidement. Et aussi, je trouve, ça aussi, ça arrive encore plus tard dans les parties, je pense, et dans la progression, c'est d'observer un peu ce qui est sorti en fait.
Ouais, si tu vois qu'il y a beaucoup de mousses qui sont sorties à 4, tu te dis voilà, bon, j'ai laissé tomber quoi.
Tu dis bon, bah je vais pas en avoir beaucoup, je vais potentiellement plus en avoir beaucoup. Sans forcément faire gaffe à la répartition, je crois que j'ai jamais regardé même la répartition de chacune des tuiles. Je crois que c'est assez linéaire en fait. Qu'il y a...
C'est 9 chacun, je crois, ou 8 chacun. Ils ont tous le même nombre. Il y a un truc important dans le hasard que t'as pas dit mais qui paraît évident, c'est qu'évidemment le recto et le verso, c'est pas toujours d'un côté il y a le mousse et de l'autre côté il y a le cartographe. Non, c'est toujours réparti de manière aléatoire pour que tu sois pas, ben là, si je retourne, je vais forcément avoir ça. Ça aurait aucun intérêt.
Ah bah, s'il y a un mousse de ce côté-là, il y a forcément ça. Non, on sait pas ce qu'il y a. On sait jamais vraiment ce qu'il y a de l'autre côté. Mais du coup, effectivement, au fil des parties, on va observer un peu ce qui est sorti et donc la quantité de tuiles probables. Enfin, pareil, s'il y a beaucoup de singes qui sont sortis pour flipper, bon, on va prendre un peu moins de risques sur les canonnières parce qu'on sait qu'on pourra plus forcément les flipper, etc. Donc ça aussi, c'est des mécaniques d'observation qui arrivent au fur et à mesure des parties. Et donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal d'éléments. De progression en fait, d'interaction et surtout de progression. Enfin, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture et de style de jeu qui peuvent se dégager au fur des parties.
Moi, j'adore l'interaction qu'il y a dans Captain Flip quand même. Enfin, c'est vrai qu'au début, tu vois, ça le paraît pas. Et rapidement, notamment la notion de course. Je crois que c'est dans Ancient Knowledge où les gens disaient, c'est parce que tu joues pas assez vite. En fait, c'est une course, donc va chercher tes trucs. Là, la notion de course. Elle est plus transparente que dans Ancient Knowledge, je trouve. Et t'es vraiment à te dire, waouh, en fait, ouais, t'as beaucoup d'éléments de attrition. Tu vois que la personne est trois canonnières, tu vas essayer de piocher beaucoup de moins un
ouais.
qui te permettent de rejouer
de finir la partie rapidement.
Avant qu'ils puissent la retourner. Moi, je sais que ces derniers temps, je joue beaucoup effectivement les plus simples, les trucs qui te permettent de rejouer, qui te font des moins un, mais ouais, t'as quand même. Pas mal
bah
de
en
trucs
fait
qui...
effectivement vu que tu remplis aussi des colonnes plus vite, tu vas avoir des bonus sur les colonnes qui contrebalancent un petit peu ces moins 1
ouais.
et en plus du fait d'accélérer la fin de partie donc qui contre certains joueurs qui ont des stratégies un peu plus à long terme
ouais.
Est assez efficace ouais.
Ouais ouais, je trouve vraiment l'interaction trop intelligente dedans et trop fort quoi. Enfin alors que ça paraît rien, tu vois, tu lui dis va y avoir des sentiments de flip and write, c'est vraiment ça, c'est du flip. Et alors ils auraient pu faire des coches hein, plutôt que des tuiles hein. Ça aurait marché aussi, tu vois. Et sauf que vraiment t'as pas le sentiment des flip and write où vraiment t'es dans ton coin c'est trop bien, je trouve. Trop fort.
Ouais, après, ça peut rejoindre aussi un peu... Enfin, je trouve dans la catégorie et puis dans la pioche et le placement de tuiles, ça peut... moi, ça m'a fait penser un peu à Carcassonne, mais avec... plein d'avantages par rapport à un Carcassonne où déjà effectivement c'est beaucoup plus rythmé et timé puisque Carcassonne tu finis quand t'as fini la pioche donc ça peut être un peu long et t'as beaucoup plus de contrôle puisque Carcassonne tu pioches une tuile, tu dois la placer, alors tu choisis où tu la places et t'essayes d'optimiser ton placement un peu comme dans Captain Flip, mais effectivement t'as pas de choix quoi, tu peux pas changer la tuile ou la flipper. Tu vois un Carcassonne où on tirerait dans un sac et où ce serait recto verso, bah ce serait tu vois, vachement plus intéressant pour le coup parce qu'il y aurait au moins deux possibilités, ce serait plus rigolo. Ça, c'est une petite idée, tu vois. Tester, je vais coller des tuiles de Carcassonne l'une avec l'autre. mais ouais, beaucoup plus de contrôle et beaucoup plus de rythme dans une partie de Captain Flip.
Ouais, je sais pas si je dirais plus de contrôle parce que dans Carcassonne, le contrôle vient. Alors, t'as les variantes qui permettent de prendre plusieurs tuiles, mais ça, c'est des variantes. T'as le contrôle du placement des meeples, quoi. C'est pas, je trouve Carcassonne plus brain. Ce qui a pas forcément de lien avec la notion de contrôle, mais ouais, en tout cas en termes de rythme, Captain Flip est beaucoup plus soutenu quoi.
Clairement, alors tu m'as un peu aidé dans ce que t'as évoqué avant parce que j'avais cette sensation effectivement de retrouver un peu la patte de Paolo Mori sans mettre exactement le doigt sur ce qui me faisait penser ça. Et tu l'as dit, c'est vraiment sur cette notion de choix et de dilemme en fait qu'on peut avoir. C'est vrai que c'est quelque chose d'opportunité et de choix qu'on retrouve pas mal dans l'œuvre de Paolo Mori. Donc, effectivement, j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus, mais tu l'as bien souligné sur le match du siècle.
Sur le match du siècle, ouais. Konzadori aussi, même dans Rai, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est le seul que j'ai joué de lui, je crois, mais il est assez intéressant de ce point de vue-là. Après, c'est moins notable que Paolo Mori. Moi vraiment, Captain Flip, je l'ai mis vraiment dans la suite d'un Augustus, tu vois, qui est aussi de Paolo Mori. Alors, il a été beaucoup développé par Catala, Augustus, donc voilà. Mais pour moi, alors, c'est pas les mêmes mécaniques, mais il y a les mêmes sentiments de maîtrise d'un certain format. C'est-à-dire que il est trop fort. Enfin, il est trop fort dans plein d'autres jeux, Paolo Mori. Mais tu vois, c'est exactement un très bon exemple de jeu simple et très intelligent et qui a plein de petits enjeux. Moi, je le compare souvent parce que notamment Boza fait partie de Playpunk.
Oui.
Et qu'on a fait le pour et le contre. Tu sais que j'aime pas Seven Wonders Architect. Je me dis, en fait, mec, tu vois, c'est ça, un jeu qui marche dans ton format. Ton Seven Wonders Architect, il est nul pour plein de raisons. Regarde, ça, c'est un jeu qui a le même public, qui a le même format, qui a la même complexité, entre guillemets, mais qui marche en termes d'émotion, en termes de choix, en termes d'enjeux. Mec, arrête de faire des jeux, édite tes jeux, arrête d'essayer de faire ça parce que tu y arrives pas, alors que Paolo Mori y arrive. Tu vois, Augustus, il y a un peu ce sentiment aussi de c'est con, c'est un bingo, mais putain, les émotions, elles sont là quand tu tires ton truc. Et pareil, tu vois, le côté flip dans Captain Flip, ça marche trop en termes d'émotion, tu vois. Mm. T'es là et c'est un mouvement qui est fort, alors qu'il marche mieux en physique pour le coup que sur BGA. Mais t'es là et ça se joue à rien, tu vois, et c'est un petit flip, mais le moment de tension que t'as au moment du flip, il est super maîtrisé. Et je trouve ça brillant de bout en bout, moi, comment Paolo Mori arrive dans tous les formats de jeu, comme tu l'as dit, à parfaitement maîtriser le scope de les enjeux de choix par rapport à ce que je veux développer comme complexité de jeu, et comment est-ce que j'organise ça pour que le jeu soit intéressant quel que soit son format. Je trouve qu'il est trop fort.
Ouais, et la maîtrise du hasard aussi, ouais, qui est intéressante. Ouais. Et alors, j'avais prévu de comparer Captain Flip à Seven Wonders Architect, mais pas pour la même raison, on en reviendra un peu plus tard. Et pour aussi petite info pour nos auditeurs et auditrice, Augustus du coup de Paolo Mori n'est plus édité sous le nom d'Augustus, c'est Via Magica maintenant, qui a été la réédition d'Augustus, donc effectivement
qui est moins bien,
ça a été c'est quasi le même jeu, mais effectivement la thématisation est moins sympa, je trouve.
C'est pas le même jeu parce qu'ils ont enlevé des éléments de course, en fait, et des éléments qui changent vraiment, au-delà du fait que ce soit pour moi moins lisible en termes de visuel. Ils ont enlevé les éléments de course sur certaines ressources qui étaient un moteur intéressant d'Augustus, tu vois. Et,
ah ouais, pour moi il y a les mêmes éléments de course dans Via Magica, mais
non, il y a un truc qui circule plus, et
mais oui, vous trouverez plus malheureusement Augustus sous ce nom là dans vos boutiques. Ou alors, s'il reste du stock, encore des vieux stocks de chez Hurricane, mais...
Ouais, ou sur Ocasio.
Ou sur Ocasio, ouais. N'hésitez pas. Du coup, on a pas mal expliqué un peu les sensations de jeu et comment ça fonctionnait. Thématiquement, même si on l'a dit, c'est pas le thème d'origine, ça fonctionne pas trop mal. Alors clairement, c'est pas un jeu ultra thématique, mais je trouve que la thématique du pirate fonctionne par rapport à la mécanique de recrutement et de choix d'équipage.
Ouais, et puis surtout les effets de tuiles, tu vois, ils sont pertinents, quoi.
Oui, les effets de tuiles sont assez pertinents par rapport au personnage, ouais.
Et les interactions entre les charpentiers et la canonnière, trop drôle.
Enfin, oui,
et la vigie, machin. C'est plutôt pertinent, je trouve aussi.
Mais globalement, tu vois, tu sens que t'aurais pu trouver ce genre d'effet sur d'autres thématiques. Enfin, Star Wars, je pense que ça marchait aussi avec certains personnages, etc. Donc,
En tout cas, ils s'en sont bien sortis, et je trouve que les personnages, les pouvoirs des persos, c'est aussi ce qui fournit beaucoup au jeu. T'as des notions de combo, t'as des enchaînements qui sont cool, et puis tu vois, les effets de collection sont un peu moins originaux, mais il y a quand même des très bonnes idées, je trouve, que ce soit thématiquement ou d'un point de vue de comment ça se réalise.
Et puis je pense que c'est une thématique qui a dû aussi plaire à Paolo Mori, vu qu'il s'était déjà essayé à la piraterie avec Libertalia. Sur l'édition, donc on l'a souligné, c'est fabriqué en Pologne, donc c'est un plutôt bon point. Et de ce côté-là, je trouve que c'est aussi à peu près l'exact opposé de Seven Wonders Architect, puisque là, on a une édition qui est vraiment, à part un petit détail, mais qui est vraiment j'allais dire basique, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, qui va à l'essentiel.
Il n'y a pas de plastique.
Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de choses exubérantes. Voilà, on est assez loin, effectivement, de l'édition assez... mais comme je l'avais dit, qui sert quand même un peu le jeu, hein, dans Seven Wonders Architect.
Ouais, bien sûr.
Mais voilà, on est quand même assez loin de ces éditions très tape à l'œil, on va dire. Donc ça va vraiment à l'essentiel. Sur les illustrations de Jonathan Aucomte, je suis pas... c'est pas ce que je préfère, c'est pas ma tasse de thé en fait, mais je sais pas si c'est dû à ces illustrations ou au travail d'infographie qu'il y a eu autour de ces illustrations, parce que notamment le travail qu'il a fait sur le fil ou sur la maison des souris, je suis beaucoup plus friand. Donc je sais pas si c'est les illustrations dont je suis pas fan ou si c'est le travail qui a été fait de d'infographie. Ça fait le job hein, clairement, mais c'est pas un jeu où on se dit waouh, ouais, magnifique quoi.
Ouais, ça reste assez classique en termes d'identité. Même si il faut souligner quand même le fait qu'il y ait beaucoup de personnages féminins et qu'ils soient pas, tu vois, la canonnière ou la charpentière ou quoi. C'est des personnages qui sont pas stéréotypés.
Ouais, non, ça clairement c'est un bon point aussi. Il y a autant de personnages féminins que masculins. Il me semble. Quoi que, il y a neuf types de pirates, donc il y a peut-être un léger déséquilibre.
Mais... Et puis Mousse pour le coup c'est Épicène, donc voilà. Et le perroquet, le sang, on sait pas.
C'est ça.
La charpentière, moi je sais pas, mais de loin à chaque fois la tuile. Tu vois un personnage avec une barbe à cause des tresses. Voilà. C'est une anecdote, mais à chaque fois je le vois comme ça.
Donc ouais, le matos fait le job aussi, hein, c'est assez épuré. Il y a deux petits détails sur le matos qui me perturbent un petit peu. Donc il y a la carte justement, donc il y a la carte qui a une taille disproportionnée. Quand on pose un cartographe, on récupère la carte au trésor. La carte au trésor est gigantesque par rapport au reste du matos. Alors ça, dans l'interview, effectivement, Antoine et Thomas nous expliquaient que c'est parce que les joueurs et joueuses avaient tendance à oublier de prendre leur bonus en fin de tour quand ils avaient la carte, et que pour des raisons, voilà, de... On va dire
bullshit.
Bah, je sais pas.
Ça
s'entend quand même, hein, de se dire, bon, bah, le truc est tellement gros que je le vois et que j'y pense, quoi, mais...
Alors, en vrai, non. Enfin, en fait, moi, le problème, c'est que je trouve que c'est absurdement grand aussi. Mais, tu vois, j'ai pas besoin d'aider John. Je dis, ok, c'est pour ça, mais en fait, le fait est que, bah, sur BGA, déjà, effectivement, c'est plus simple. Le fait est que moi, il y a plein de parties en physique où la personne qui a la carte, c'est pas que moi, alors c'est peut-être parce qu'on la met pas au bon endroit, oublie de prendre sa pièce. À la fin du tour, quand même. Et du coup, la boîte gigantesque, on oublie.
Mais t'imagines, si elle était plus petite, ce serait peut-être encore pire.
Bah, je sais pas, mais il aurait fallu trouver autre chose, je sais pas comment, même.
Mais c'est vrai qu'elle fait, un petit peu grande comme ça, mais.
Ouais, bon, c'est ouais. Un peu ridicule.
Il l'explique par ça, en tout cas. Enfin, ils expliquent ce choix éditorial comme ça. Et l'autre petit bémol aussi, c'est le sac de pioche, qui est un petit peu
ça,
petit, en fait. Ouais. En fait, vu, surtout en début de partie, vu le nombre de tuiles qu'il y a, il y a quand même pas mal de tuiles, on peut pas, enfin, ce genre de jeu de pioche, on a souvent envie d'aller fouiller un peu dans le sac et de pas prendre la première. Ça fait partie du plaisir de ce genre de tirage aléatoire dans
les
un sac.
Charlatans.
Ou même dans Augustus, hein, quand on regarde, on pioche aussi dans un sac.
Ouais, carrément, t'as raison.
Et ouais, le sac est un peu petit, ce qui fait qu'en début de partie, bon, ben, on peut pas vraiment fouiller dans le sac sous peine de risquer de faire ressortir d'autres tuiles du sac. Enfin, donc ça, c'est ouais. Le sac aurait pu être un peu plus grand.
Ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Le sac, ouais, c'est vraiment un problème en termes de sensation de jeu. Alors après, moi, je sais pas. Je trouve que la boîte est un peu grande. Je pense que les plateaux auraient pu être plus petits, les trucs aussi, parce que je trouve l'iconographie assez claire et assez facile à... je trouve qu'il y a sûrement la volonté, tu sais, l'habituel discours, oui, non, il faut qu'on ait la boîte de ce format pour que ça se voit, etc. Je pense qu'elle aurait pu être plus petite, sans aucun souci. Et que du coup, ça prend un peu de place sur la table quand on est à 4 pour pas forcément grand chose.
Après, tu pouvais faire difficilement plus petit que la taille des plateaux, et je trouve que la taille des plateaux est... Parce que la taille des plateaux dépend de la taille des tuiles, et je trouve que la taille des tuiles, c'est une taille de tuiles assez standard qui fonctionne bien, quoi.
Ouais, ouais, je sais, ouais. Ouais, moi, je pense que j'aurais pu avoir d'autres choix faits pour réduire un peu tout ça plutôt que de se conformer à cette taille de boîte carrée.
C'est vrai que la boîte est un peu grande par rapport quand on... Enfin, j'ai joué sur BGA avant de découvrir le jeu en physique, et effectivement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus petit aussi.
Moi, je m'attendais à une boîte de la taille du match du siècle, par exemple, tu vois, ou de d'Orgée de Blé ou de Seven Wonders Duel. Et je pense qu'il y avait moyen de le faire. Mais moi, il y a juste un truc sur le passage au physique, c'est... alors, je l'ai dit, hein, tu l'as dit aussi, le côté aller chercher dans le sac, c'est quelque chose de plaisant pour moi. J'adore dans les charlatans de Belcastel. Par exemple, dans Dorf Romantique aussi, je rajoute un sac de pioche pour aller chercher les tuiles. Plutôt que de les piocher, parce que ça fait partie du plaisir de jeu. Le seul truc, il y a le plaisir du flip qui est pas sur BGA, que t'as. Le seul truc, c'est que souvent, du coup, faut faire gaffe quand tu prends la tuile, tu veux pas, tu sais, prendre le sac de manière verticale et puis la prendre comme ça. T'es obligé un peu de la prendre, la tuile de manière horizontale pour pas voir l'autre côté.
Ouais, pour pas voir l'autre côté, effectivement.
Mmh. Et bon, c'est un petit parasite cognitif pour moi, mais c'est pas très grave, hein. Enfin, tu t'y fais vite. Hein.
Après, l'avantage du physique par rapport à BGA, je trouve, c'est vraiment sur les parties à plus de deux joueurs où on a une vachement meilleure vision sur ce qui se passe chez les autres.
Bien
c'est
sûr,
vrai que sur BGA, en fait, faut un peu scroller pour voir les plateaux des autres et c'est beaucoup moins... Enfin, de ce point de vue là c'est beaucoup beaucoup plus agréable sur le jeu physique, je trouve.
Ouais, pareil.
Cette partie contrôle, autant à deux ça va bien parce que les plateaux sont côte à côte, je crois, sur BGA quand on joue à deux, donc on voit facilement ce que fait l'autre. À plus de deux joueurs c'est moins facile sur BGA que sur le jeu physique, donc ça c'est un plutôt bon point pour le jeu physique.
Alors juste un point sur l'édition, qui est un élément important qui a raté, je pense, au niveau de la prod. C'est un élément assez important du jeu qui peut un peu perturber votre expérience de jeu après, donc on va pas en parler tout de suite. Comme ça, si vous voulez ne pas l'écouter, vous l'écouterez pas, je mettrai des timecodes et tout, et je ferai une annonce. Ce sera plutôt vers la fin de l'épisode après le générique, donc ce sera vraiment un post-générique. C'est un petit souci d'édition qui sera sûrement corrigé dans les trucs suivants. Ne l'écoutez que si vous voulez l'écouter, on en parlera en fin d'épisode, voilà. Je mettrai tout ce qu'il faut, n'allez pas vous spoiler si vous voulez pas vous spoiler, quoi.
C'est ça, c'est pour info, c'est quelque chose qui... en fait, c'est un défaut d'édition que si vous le remarquez. Et du coup, tant que vous le remarquez pas, en fait, ça ne va pas...
C'est un défaut d'édition invisible, pour ceux qui le remarquent
et,
pas.
Et du coup, si vous voulez... Si vous écoutez ce disclaimer et que vous le remarquez, ça peut altérer vos parties. Donc, si vous voulez pas vous gâcher le plaisir de jeu, n'allez pas l'écouter. Si vous êtes trop curieux et que vous n'avez pas peur de changer un peu la physionomie de vos parties, vous pouvez aller l'écouter. Mais voilà, en fait, n'y allez vraiment que si...
Vous êtes prévenu.
Voilà.
Le choix est vôtre.
Concernant les variantes et les possibilités, on va dire, d'évolution du jeu, donc on l'a déjà dit, il y a un mode solo qui est disponible, les règles sont disponibles. Effectivement, ça peut être, on peut très bien faire du mode solo en mode score attaque un petit peu. Hein.
Ouais, alors ça, je trouve ça. Alors heureusement, c'est l'éditeur qui a mis la règle solo sur BGG, donc c'est oui. Cool. Parce que sinon, franchement, enfin, soit le mode solo est nul, dans ce cas-là, tu ne mets pas avec le goodie, ou soit il est bien, et à ce moment-là, tu ne mets pas avec le goodie et tu le mets dans le jeu de bastion. Je trouvais ça trop con comme move, quoi.
Ouais, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est. En fait, quand j'ai joué, je me suis dit, on pourrait très bien y jouer tout seul, mais est-ce que ça vaut une règle le solo dans le jeu de base, je ne sais pas.
Ouais. En tout cas, ça change pas grand-chose. Il y a juste par rapport à la map que y a un truc qui change, quoi.
Et après, sur la partie effectivement goodies, il y a un plateau supplémentaire, donc un cinquième plateau qui a été distribué avec les premières éditions du jeu et qui est aussi disponible sur BGA. Même si les plateaux sont un peu plus grands que du A4 en largeur, donc pour l'imprime, si vous voulez l'imprimer vous-même, faudra passer au moins sur du A3. Petit détail pour les DIY.
Mais je trouve quand même ça cool que c'est Thomas, c'est le
qui le mette, ouais.
C'est Thomas Provost, c'est Limpide. Voilà, il s'appelle Limpide sur BGG, vous le saurez. Qu'il le mette vraiment, tu vois, il y a pas ce côté goodies exclusif. Lol, vous l'aurez plus jamais. Non, ils le mettent aussi gratos sur BGG et ça c'est cool. Vraiment, ouais. Je trouve, d'un point de vue...
Oui, c'est un beau geste. Et puis, ça permet d'éviter la frustration de ceux qui n'ont pas eu le jeu dans les boutiques qui avaient le goodies. Ou sur Cannes aussi, où vous avez le goodies, mais où les boîtes sont parties très vite. Mais par contre, c'est un jeu qui a un potentiel d'évolution qui est assez énorme, puisque en fait, on peut très bien imaginer des nouveaux plateaux avec des nouveaux pouvoirs. On peut très bien imaginer aussi des nouvelles tuiles. Ce serait assez facile à l'avenir de faire des extensions qui rajoutent des tuiles, mais dans ce cas le sac devient encore trop petit, donc l'extension devra prévoir un énorme sac. Et d'ailleurs sur les variantes de plateaux, on a déjà sur BGG des plateaux fan-made qui sont disponibles.
Ouais.
Il y a deux plateaux, fan-made qui sont disponibles.
Très malin.
Il y en a un sur Tortuga. Donc la fameuse île refuge des pirates, et il y en a un sur la jungle, enfin qui se passe dans la jungle, donc qui est aussi disponible dans un univers un petit peu pirate, où effectivement il va y avoir des effets assez intéressants, notamment des effets ou des conditions pour progresser sur la colonne. Donc c'est assez intéressant, même Thomas Provost avait commenté les nouveaux plateaux en disant que c'était des super idées, et en précisant que si le plateau contient plus que 15 cases, il n'est pas jouable à 5 du fait du nombre de tuiles en fait qu'on peut tirer pour remplir les plateaux.
Mais ouais, la super idée, alors on peut citer, c'est Arcane 1301,
oui,
qui l'a
sur BGG,
011, ouais. Pardon, qui l'a fait. On vous mettra le lien dans le truc. Franchement, moi c'est ce que j'attendais pour certains effets, parce que je trouve que quand même les effets des tuiles, je les trouve super, mais les effets des plateaux, je les trouve un peu plan-plan. Là, il y a des trucs trop bien. Bon, il y a déjà effectivement les conditions où parfois tu dois perdre des points. Ah, ça, on ne l'a pas dit aussi,
pièces,
mais tu vois, en physique, la manipulation des pièces est chiante, mais ça, c'est difficile de faire des marchés comme ça où tu dois faire des échanges et tout pendant la partie. Là où sur BGA, c'est automatisé, évidemment. Donc, t'as ça, ou bien perdre la carte ou des trucs comme ça, et c'est super, et surtout des effets d'en haut qui vont permettre d'aller retourner chez quelqu'un d'autre. Du coup, il y a un peu de mémoire qui, ou de retourner encore chez toi autre part, des trucs comme ça, et je trouve ça trop malin, quoi.
Et du coup, bah, ça ouvre quand même pas mal de possibilités, hein. Le jeu a l'air d'être un succès, et donc on peut s'attendre dans les prochaines années à avoir des extensions, que ce soit des extensions de nouveaux plateaux ou des extensions avec des, potentiellement des tuiles qui ont d'autres effets, d'autres pouvoirs. C'est vraiment un jeu qui se prête à une évolution et à des extensions dans le futur. On peut aussi dire, d'ailleurs Gaume, un de nos auditeurs l'a expérimenté, la possibilité de jouer en campagne, c'est-à-dire d'enchaîner des parties en faisant dans l'ordre les quatre plateaux de la boîte de base. D'ailleurs, ces quatre plateaux ont été, et ça Antoine et Thomas...
Ça,
ouais.
J'ignorais, tu vois. Alors que c'est vrai que c'est transparent, mais en fait, j'ai pas pensé du tout. Ouais.
Mais Antoine et Thomas, moi, j'avais pas fait gaffe non plus, et c'est Antoine et Thomas qui nous ont parlé durant l'interview au Fige. En fait, les quatre plateaux ont été réfléchis et pensés pour raconter une sorte d'histoire. C'est un peu narratif, c'est-à-dire que le plateau A, le premier plateau, c'est le bateau pirate, donc c'est la création de l'équipage, etc. Le plateau B, c'est le kraken, donc c'est le combat de l'équipage avec une créature. Le plateau C, c'est le radeau, donc le combat s'est pas très bien passé, et le bateau a coulé, vous vous retrouvez sur un radeau. Et le plateau D, donc le dernier, c'est l'île déserte. Donc vous vous échouez avec votre radeau sur une île, et puis c'est un plateau un peu à la Robinson Crusoe où vous avez construit une espèce de cabane sur l'île déserte, etc. Donc il y a ce côté narratif et ce côté.
Je trouve ça trop bien, moi.
Ouais,
comme idée, tu vois, j'ai pas pensé en regardant les plateaux parce que moi je mets en plateau aléatoire par exemple sur VGA ou quoi. Et c'est vrai que c'est créateur de narration à partir de pas grand chose, mais je trouve que c'est une super idée. De narrative, et du coup ça peut laisser ouvrir l'histoire à d'autres trucs, quoi.
À la suite de l'histoire, ouais, pour les prochains plateaux.
C'est génial, je trouve.
Tout à fait. Donc voilà pour un peu les différents éléments et les possibilités qu'offre Captain Flip. Moi, je vais finir avec mon avis final. Comme vous l'avez entendu, je suis assez enthousiasmé par ce jeu. En fait, c'est ce que j'aime dans les jeux, c'est-à-dire une sorte d'immédiateté et de simplicité des règles, ce qui fait que tout le monde peut jouer. C'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout type de public, mais avec en même temps plein de petites choses malines et une profondeur, finalement une progression dans le jeu au fur et à mesure des parties, un renouvellement aussi on s'ennuie pas quand on y joue, et j'ai beau être à plus de 50 parties, les parties se ressemblent pas, et on a vraiment cette sensation à chaque fois devoir optimiser au mieux ce qu'on va faire par rapport à ce qu'on tire. Donc c'est vraiment un très bon jeu, un très bon filler aussi pour ceux qui aiment donc soit du jeu familial, soit des plus gros joueurs, hein, qui aimeraient un peu respirer entre deux gros jeux. Ça, je pense que c'est un jeu qui peut leur plaire aussi, parce qu'il y a une dimension quand même stratégique et de réflexion qui est pas absente malgré le hasard. Le hasard est très bien balancé. Enfin, c'est vraiment un équilibre assez fin et assez intéressant.
Moi, je trouve ça assez brillant. Hein. Après, on a beaucoup parlé de Paolo Mori, mais je trouve que c'est une constante dans son design. C'est vraiment réussir à créer des enjeux au niveau de la proposition finale, et qui, du coup, à chaque fois, la proposition finale a un super équilibre et te donne l'impression d'avoir les choix là où il faut. Et encore une fois, c'est un jeu qui procure des fortes émotions. Moi, je le mets vraiment dans la veine, tu vois, d'un Lucky Numbers ou quoi, des jeux vraiment très réussis, parfaits dans leur format, dans leur scope.
Ils sont évidents, ouais. C'est le genre de jeu où quand ils jouent, c'est une évidence et tu te dis...
Mais
bah,
par exemple, tu vois, t'as Pixis qui est sorti, qui est évident, mais que je trouve nul. Et moi, c'est trop bien des jeux comme ça qui sortent, en termes de propos critiques, parce que tu sais, souvent on te dit oui, mais t'es pas le public, parce que c'est un jeu familial. Bah en fait, si tu vois, Captain Flip, c'est un super...
C'est un jeu familial, ouais.
Et c'est un super jeu, tout simplement, en fait. Ouais. Y a pas de question de dire c'est parce que t'es un gros joueur et ça te suffit pas. Si, mais juste, faut que ce soit bien fait et qu'il y ait des enjeux de choix là où je les aime, moi, pour que j'aime le jeu. Et ben, Captain Flip, il fait ça, tu vois, comme un Lucky Numbers, comme plein de jeux, comme un Augustus. Et où, bah ouais, moi aussi, j'ai plus de 150 parties, principalement sur BGA aussi, et aucun problème à relancer à chaque fois. Et franchement, trop fort, quoi. C'est vraiment client l'Asdor l'année prochaine, on peut le dire déjà. Mais,
ouais,
mais franchement, je trouve ça... Et puis, tu vois, ils disent, je sais plus quel est l'âge qu'ils disent, 8 ans, franchement, même
ouais,
plus tôt, tu peux,
ans,
en fait. Hein, franchement,
oui, clairement.
T'auras peut-être pas les petites subtilités sur le tempo et tout dont on a parlé, mais je dis juste un truc qui me fait marrer à chaque fois, c'est le nom de l'éditeur Playpunk, qui... J'adore le jeu, hein, vous l'avez compris aussi, mais c'est vraiment pas un jeu punk du tout, quoi. Tu vois, c'est vraiment un jeu très mainstream et tout, que ce soit en termes d'illustration à plein de niveaux. C'est tout sauf punk, mais...
Mais si vous voulez en savoir plus sur le nom Playpunk, je vous invite aussi à écouter l'interview qui paraîtra bientôt. Ben merci Flavien. Je vais terminer par par la fiche, refaire la petite fiche signalétique du jeu. Donc c'est un jeu de Remo Conzadori et de Paolo Mori, illustré par Jonathan Oconte, édité chez Playpunk, jouable de 2 à 5 joueurs ou joueuses, avec un mode solo qui est disponible gratuitement sur BGG si vous voulez jouer tout seul. C'est recommandé à partir de 8 ans, c'est annoncé pour des parties d'environ 20 minutes. Je rappelle que ça dépend plutôt du nombre de joueurs, hein. Ça peut aller beaucoup plus vite à 2.
Ouais, et... On dépasse rarement les 15,
ouais,
hein, franchement.
Et, mais ça peut être plus long à 5 quand même, hein. Ça peut dépasser les 20 minutes à 5. Et c'est disponible au prix de 24,90€ chez notre partenaire, la Caverne du Gobelin.
Yes, bah merci Ben, c'est bien. Quelqu'un qui a parlé de ce bon jeu, je suis ravi.
Ouais,
parce que moi, ouais, il fallait. Hein. Je pense qu'on était plusieurs à être motivés et tout, c'est bien, on a pu faire le binôme. Le duo. Alors j'ai fait une blague sur le sac. Tiens, moi tu sais, je suis le mec des blagues. J'ai dit on va faire le duo Mori, le duo épisode Mori.
Oui.
Et c'est un épisode qui va rester dans les mémoires. Et je sais pas si quelqu'un l'a compris sur le stack. Toi t'as compris ou pas? Non. Moi je l'ai refait à un pote et il a pas compris. Il m'a dit pourquoi Mori? Et j'ai dit non, c'était pas Mori. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous l'avez. C'est à la base de latin, ma blague. Alors, en tout cas, que vous ayez aimé notre émission ou non, vous pouvez nous le faire savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i et jeux avec un x. Et alors, on est sur X, anciennement Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est aussi maintenant sur Blue Sky et sur Mastodon.
Blue Sky.
Mais venez, ouais, sur Discord aussi pour discuter, c'est peut-être le plus simple. Voilà, c'est plus immédiat et tout avec nous en tant qu'individus. Car nous sommes des individus.
Mais n'hésitez pas à partager les contenus sur les réseaux quand même pour nous donner de la visibilité et aussi de nous laisser des commentaires, hein, si ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Moi je sais que j'y réponds pas souvent, mais je vais souvent les lire, donc n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous réponde, n'hésitez pas à me solliciter, je ferai l'effort de vous répondre. Je sais que Flavien, toi tu réponds beaucoup plus souvent aux commentaires.
Ça dépend si les commentaires sont intéressants. Si j'ai pas répondu, posez-vous des questions. voilà, et puis si jamais vous avez trop de sous, hein, que Captain Flip voilà, vous a laissé quelques pièces non utilisées, que vous avez eu le cartographe trop de fois dans la partie, vous pouvez nous aider financièrement, et pour ça on a un PayPal, et sinon un virement bancaire, vous nous contactez et on s'arrange en gros. PayPal, je crois que c'est sur le site, mais... Donc le mois prochain, je sais pas, je me demande si c'est pas la première fois qu'on fait deux jeux d'un même auteur quand même dans les jeux du mois.
Faudrait voir. Non, je crois que c'est déjà arrivé. J'ai plus en tête, mais il me semble que c'est déjà arrivé.
D'accord.
On regardera ça.
Ouais, bah en tout cas, le mois prochain, deux nouveaux jeux avec sûrement un nouveau duo de présentateurs ou présentatrices. La semaine prochaine, normalement, c'est un dossier au thème encore inconnu, on n'est pas encore sûr, donc voilà. Et on se retrouve bientôt sur ProxyJeux, en tout cas, et en attendant, jouez bien.
Bien.
Alors, pour les courageux et les courageuses qui sont restés pour le petit spoil, attention, je vous rappelle, on l'a dit tout à l'heure, mais ça peut changer votre expérience de jeu, d'autant plus que ça sera un souci que si vous le remarquez et que vous écoutez, sinon, il y a peu de chances que vous le remarquiez. Voilà, faites ça en âme et conscience, c'est aussi un souci d'édition qui sera sûrement réglé dès le prochain tirage. Donc, si maintenant vous êtes encore là après ces multiples mises en garde, sachez que le petit souci, c'est que... En gros, sur les punchboards, il y a certains personnages comme le cartographe, la navigatrice ou le mousse qui n'ont été imprimés que sur un côté des planches de punch, sachant que les tuiles, donc un côté un peu incurvé, vous savez, un peu rond sur les côtés, arrondi, et que de l'autre côté, bah, c'est plus sharp. Voilà, bref, c'est pas incurvé. Bah, tous les mousses sont par exemple du côté incurvé.
C'est plus saillant.
Ouais, c'est ça. Idem pour les navigatrices. Et donc, quand vous choisissez une tuile dans le sac, bah, on distingue le côté saillant ou non. Et donc, si vous recherchez certains personnages en particulier, ça peut influencer votre choix. Et parfois, c'est difficile après de s'en défaire de ce sentiment. C'est un peu inconscient, en fait. Encore une fois, c'est clairement pas un choix éditorial. Enfin, je vois pas à quel moment est-ce qu'ils auraient pu choisir de faire ça. Donc c'est une erreur qui sûrement sera corrigée sur un prochain, je pense que ça aura été remonté, sera corrigée sur un prochain tirage. Si vous avez écouté ça parce que vous êtes trop curieux ou curieuse, c'est un vilain défaut déjà, mais soyez libre aussi de ne pas le dire aux personnes avec qui vous jouez pour leur laisser leur expérience de jeu intacte. Moi je me suis renseigné parce que je savais qu'on allait faire une émission et tout, mais gardez aussi la surprise, allez pas le crier partout, parce que respectez les expériences des joueurs et joueuses. Voilà, c'est fini. Est-ce que t'as une blague, une dernière blague, Ben?
Non.
T'as pas de blague sur Mori, sur Non, 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 bon, on vous laisse sans blague alors. Allez, ciao.